Voilà, j'aimerais vous souhaiter bienvenue au nom de l'Église évangélique de Meyrin. D'abord, bienvenue à notre invité, Monsieur Nicolas Danzé. Merci d'être avec nous. Si vous êtes venu pour écouter une conférence, le papillon épinglé du plaisir au piège, vous êtes à la bonne adresse. Alors, Monsieur Danzé nous vient du Valais. Vous êtes biologiste de formation, et je vais essayer de prononcer comme il faut, responsable de toxicologie forensique à l'ICHV, le laboratoire de l'hôpital. En tout cas, merci beaucoup d'être venu jusque chez nous. Donc, je vous laisse tout de suite la parole.
Merci. Bienvenue. Beaucoup. Alors bonsoir, en principe je devrais parler sans micro, mais visiblement il y a un écho. L'idée de ce soir, c'est de vous raconter une histoire. Le papillon épinglé. C'est vrai que vous attendez quand on parle de drogue, et moi je vais vous parler d'un papillon épinglé. En fait, aujourd'hui quand on travaille sur les drogues, le monde change. Et il faut vraiment plus travailler sur qui nous sommes que sur les drogues. Mais on va quand même passer un moment sur les drogues, et puis après sur un petit animal exceptionnel qui est l'être humain. Vous voyez, j'aime bien les mots. Les mots, ils sont pleins de folie. Une des choses exceptionnelles de la vie, on l'oublie trop souvent, c'est qu'on rêve d'apprendre. Apprendre, c'est juste le chemin qu'on a à parcourir. Et dans les envies qu'on a pour apprendre, eh bien, se cache notre vie. Et c'est juste essentiel, ça. Et vous voyez, apprendre, c'est vraiment essayer d'abord d'accepter qu'on ne sait pas tout. Une chose que j'aimerais vraiment préciser avant, c'est que la science, quand elle devient religieuse, elle devient dangereuse. La religion, c'est la même chose. Donc, je ne viens pas vous asséner des vérités auxquelles vous allez être obligé de croire. Ce que je viens essayer de vous dire, c'est au fond, on en est où maintenant ? Dans la connaissance. Quand on regarde les organismes de prévention, que j'aime bien un peu titiller, parce qu'ils vieillissent vraiment tranquillement, ils se fonctionnarisent, ils oublient le combat qu'ils ont à mener, ils sont en fait en train de se battre contre l'hydre de Lerne. Je ne dis pas que je suis Hercule, mais par contre, ils se battent contre l'hydre de Lerne. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand on approche la problématique des drogues, qu'est-ce qu'on fait ? On dit, il y a la cigarette. On nous a bassinés avec la cigarette. C'est vrai que la cigarette est un produit redoutable. Mais on a décidé qu'on allait faire de la cigarette l'ennemi public numéro un. Après, il y a le cannabis. Ouais, ça, finalement, on ne sait pas vraiment si c'est dangereux. Hein, il y en a même qui disent que c'est moins dangereux que l'alcool. Et puis après, il y a les autres drogues. Mais en réalité, ce sont des drogues. Et la problématique des drogues, c'est que chaque fois qu'on coupe la tête à une drogue, s'il y en a deux qui repoussent, c'est le principe de l'hydre de Lerne. Et aujourd'hui, on doit attaquer la tête immortelle. L'essentiel dans les drogues, c'est de combattre la relation qu'on a avec elles. Parce que de toute façon, je peux vous dire, aujourd'hui, chaque semaine, il y a 5 nouvelles drogues qui sortent sur le marché. Donc le cannabis, c'est les vacances. La cocaïne, c'est encore en vente libre, mais c'est les vacances avec ce qui arrive sur le marché. Donc l'idée, ce n'est pas d'attaquer une drogue. D'ailleurs, le paradoxe de nos politiques, c'est de dire que la cigarette, c'est dangereux, mais qu'un joint, c'est que 100 francs. Or, c'est les deux fumées, que je sache. Enfin, je les laisse réfléchir à Berne comme ça. Ils ont le temps. Une histoire philosophique aussi intéressante qu'on retrouve dans notre enfance, c'est le Pinocchio. Le côté sympa de Pinocchio, c'est qu'au fond, il raconte un peu la vie des gens. Pinocchio, c'est un peu l'enfant qui naît, qu'on attend, et puis qui aimerait apprendre, et qui va essayer d'avancer sur un chemin de connaissance. Le problème de Pinocchio, c'est qu'il va croiser sur sa route des gens qui vont lui proposer d'autres choses. C'est dur de se lever le matin, d'aller travailler, d'aller apprendre du vocabulaire allemand, anglais, italien, des mathématiques, tous des trucs qu'on a l'impression qu'ils ne serviront jamais à rien, alors que quelqu'un peut nous proposer des voyages extraordinaires pour pas grand-chose, hein, et qui nous amène dans un autre monde. Le problème, c'est que ces tentateurs nous amènent dans un monde où peut-être vous vous souvenez de l'histoire de Pinocchio, mais tous ces jeunes qui arrivent sur l'île du plaisir, où ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, finissent transformés en esclaves et en âne. Et c'est un peu le chemin qu'on parcourt quand on consomme des substances, à mon avis. Vous savez, les biologistes, on est parfois plus philosophes que scientifiques, parce qu'on essaie de se poser des questions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il ne faut jamais oublier une chose. Quand on parle de drogue, il faut parler de l'endroit où on va les mettre. Et l'endroit où on va mettre les drogues, c'est le corps humain. Et vous savez, c'est assez joli d'imaginer que le corps humain, il a mis du temps à se construire. Et il a mis du temps à se construire, biologiquement, en s'associant. Au départ, il y avait une mère originelle. On n'était nulle part. Il n'y avait que de l'eau. Et puis, par mystère, on ne sait pas comment, il y a des petites cellules qui ont commencé à s'associer, qui ont déjà décidé qu'ensemble on était plus fort, et qui ont construit des petits sacs de vie. Et d'ailleurs, vous savez, quand on analyse le sang aujourd'hui, on a encore pratiquement la même concentration de ions, sodium, potassium et autres, qu'à l'époque la mère originelle. Donc on a un petit bout de cette mère qu'on transporte avec nous comme un héritage. Maintenant, pour faire vivre cette eau, eh bien, on a construit notre bibliothèque de la vie, l'ADN. D'ailleurs, au départ, quand on a commencé à comprendre comment fonctionnait l'ADN, on a cru qu'on allait expliquer tout. Tout est dans le génome, on allait comprendre tout. Pourquoi on est malade, pourquoi on est méchant, pourquoi on est gentil, etc. Puis finalement, on observe que dans tous les cas, l'ADN a une importance fondamentale. Mais on reste le maître de notre ADN et de notre bibliothèque. C'est nous qui décidons si on veut avancer ou pas. C'est nous qui décidons de faire des talents qu'on a reçus, ce que l'on pourra faire. Et ça, c'est assez fondamental. Une vraie question qu'on doit se poser, c'est pourquoi on se trompe. Le problème de cette question, c'est qu'elle n'est pas scientifique. On ne pose pas des questions comme ça en science. Ça, j'ai appris quand j'étais à l'Uni, parce que chaque fois, je posais la question « Pourquoi ?» Et on m'a dit « Mais comment je peux répondre ?» Hein ?« Comment ça fonctionne ?» Ça, je peux t'expliquer. « Pourquoi ça fonctionne ?» On ne sait pas. Et c'est vrai que c'est moi, c'est la question qui m'intéresse. Et pourquoi on se drogue ? C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se poser la question. Et c'est vrai qu'il y a souvent deux réponses. Bah, soit qu'on est dans une profonde détresse et qu'on a décidé d'utiliser un médicament particulier qui va nous faire faire un voyage. Soit on veut vraiment se guérir de choses ou se détruire. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'aujourd'hui, les drogues, hein, elles sont un peu la réponse à tous les problèmes. Ça veut dire qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, dès qu'on est malade, il y a un médicament. Il y a toujours un médicament. D'ailleurs, pendant longtemps, on a cru que le cannabis allait être cette panacée. Et vous savez peut-être que à une époque, Marx disait de la religion qu'elle était l'opium du peuple. Alors moi, je me dis qu'aujourd'hui, en 2012, c'est peut-être l'inverse. L'opium est devenu la religion du peuple. Les drogues sont devenues la solution qu'on attend de tout. Bah, aujourd'hui, on construit de plus en plus de médicaments. On a l'impression qu'il n'y a pratiquement jamais de solution sans médicaments. On ne peut traiter quelqu'un sans médicaments. D'ailleurs, les patients, des fois, ils vont chez le médecin. Et si le médecin ne leur donne pas une pastille, c'est un mauvais médecin. Mais des fois, il n'y a rien à faire. Il faut aller dormir, ou il faut aller boire un bon verre d'eau, peut-être une bonne bière, juste reprendre en main, se dire « Allez, je suis fatigué, j'arrête. Le profit, ce n'est pas tous les jours est nécessaire. Reprenons un peu du temps pour nous. » Les médicaments, ça ne résout rien. Maintenant, par rapport aux drogues, une question qu'il faut se poser, c'est « Qu'est-ce que c'est qu'une drogue ?» Et ça, on a le temps. On a le temps de poser les choses et de redonner aux mots la dimension qu'ils ont vraiment. Si, par exemple, je suis dépressif, et qu'on me prescrit des anxiolytiques, et que je prends un médicament pour me calmer, pour dormir. Parce que je suis dépressif, cette substance qu'on appelle drogue est un médicament, puisqu'elle a des vertus thérapeutiques, puisque je souffre. Par contre, si ce soir je me dis, et ça se fait, bon, après cette semaine harassante, il me faut me libérer de tout ce stress, alors je vais prendre un cocktail. Qu'est-ce que j'ai à disposition ? Ah, ben finalement, les médicaments que je prenais quand j'étais malade, je pourrais les prendre pour rigoler maintenant. Alors je prends mon anxiolytique, mon benzodiazépine, avec de l'alcool, je mélange tout ça, ça fait un petit cocktail assez euphorisant. À la limite, j'écrase la poudre. Il y a des tas de solutions pour prendre ces choses-là. Et d'un médicament, je fais une drogue. La différence qu'il y a entre une drogue et un médicament, c'est l'usage que j'en fais. Un patient, même si c'est vraiment pas démontré que c'est utile, mais un patient qui souffre de sclérose en plaques, et qui prend un joint de cannabis pour soulager sa douleur. Ça n'a rien à voir avec un jeune qui, un vendredi soir, décide de faire un voyage avec du cannabis. C'est un médicament. dont on mesure de plus en plus l'inutilité. Mais ça ne fait rien. Si ça lui fait du bien, qu'il prenne ça. Mais c'est un malade. Un malade, ce n'est pas une personne en bonne santé. C'est différent. L'héroïne, c'est la même chose. Les patients qui souffrent de cancer, on leur donne de la morphine. C'est un excellent antidouleur, s'il est le plus puissant des antidouleurs. Mais la morphine, c'est aussi le premier métabolite de l'héroïne. Donc en fait, c'est une substance qui est une drogue, avec un effet thérapeutique quand on souffre, avec un effet euphorisant quand on ne souffre pas. Donc la différence entre une drogue et un médicament, c'est l'usage qu'on en fait. D'ailleurs, les Anglais ont compris ça, puisqu'aux États-Unis, il y a des drugstores. Il n'y a pas de pharmacie. D'ailleurs, dans les drugstores, vous achetez du Coca-Cola, de la limonade, des piles pour votre téléphone et des médicaments accessoirement. Et puis, vous avez quelqu'un très au fond qui est en blouse, puis qui est censé être un pharmacien et qui devrait vous conseiller. Mais avant ça, vous avez acheté tout ce que vous vouliez. Hein? Donc, ça, c'est fondamental. Donc, partant de ça, si on veut poser une définition, ce soir, vous allez pouvoir sortir avec une info. Si quelqu'un vous parle encore de drogue douce, de drogue dure, vous pouvez lui dire, ah, mais mon pauvre gaillard, ça fait longtemps que tu n'as plus lu la littérature scientifique. Hein? Il y en a beaucoup qui n'ont pas lu la littérature scientifique. Maintenant, on va essayer, parce que je suis dans un domaine forensique. Forensique, ça veut dire médico-légal. Je travaille pour la police en Valais. Si un jour vous deviez rouler en Valais sous alcool, ça serait moi qui ferais votre alcoolémie. Donc évitez peut-être de boire et conduire. J'aurais toujours du plaisir à vous rencontrer, mais ce n'est pas vraiment utile. Et je vais vous raconter une histoire vraie, ça s'est passé dans le canton de Vaud, comme ça c'est neutre. Alors c'est une histoire vraie, parce que je travaille aussi au CHUV, donc je suis un peu de tous les côtés. Et puis le CURM, le Centre Universitaire Roman de Médecine Légale, maintenant il est Genève-Lausanne-Sion, donc on est une structure romande, et c'est l'union fait la force. Alors c'est l'histoire vraie d'un jeune homme normal. Il a 27 ans, comme tous les jeunes hommes normaux, en fin de semaine, ben, il va faire la foire, parce qu'il a eu une semaine fatigante, les patrons sont quand même très exigeants de nos jours. Donc il va, il boit des verres, comme tout le monde, il fume un pétard, comme tout le monde. Et donc là, on voit très tranquillement, c'est aussi quelqu'un qui dit, ouais, je consomme de temps en temps des joints, je bois de temps en temps de l'alcool. Il n'est pas médicamentel, il n'est pas médicalisé, il n'est pas traité, il n'a pas de soucis de maladie, et... Ben à la fin de la soirée, enfin tôt le matin, à 5h du matin, il part, il prend sa voiture, et il se fait intercepter par la police. Ça c'est con. Alors qu'est-ce qui se passe? Pour avoir vécu des contrôles, je dois dire, c'est assez rigolo d'être du côté de celui qui prend la photo plutôt que de celui qui est photographié. Alors le gars il dit, oui, alors entre 22h30 et 4h du matin, il a bu 3 coupes de champagne, 3 verres de vin, une pomme. Et puis après, pour désaltérer un petit peu, parce qu'il fait quand même soif en fin de soirée, il prend 3 bières, à peu près. Cool, rien à redire, une soirée normale. Hein. À côté de ça, parce que finalement, il fait quand même un peu mouillé dans ce pays, donc il se dit, il faudrait pas rassécher tout ça, donc il se prend un pétard, ça nébuleuse un peu la soirée, ça rend un petit peu tout le monde euphorique, c'est bien. Il dit fumer un joint. Bien. Et je dois vous dire que quand on fait des contrôles, les gens parlent. C'est à croire qu'ils prennent les flics pour des cons, parce qu'ils racontent aux gens, oui, j'ai bu une bière. Après, on les fait souffler dans les kilomètres, 2,5 pour 1000. Ah, oh, c'est bizarre. Montrez-moi votre bière, monsieur, s'il vous plaît, parce que ça doit être un tonneau. C'est en général l'expression. Moi, une bière. Non, comment la bière? Le joint, on aimerait aussi voir. Donc, qu'est-ce qui se passe dans des cas comme ça? Dans la loi suisse, une personne qui est interceptée au volant, qui a plus que 0,5 pour 1000, jusqu'à 0,79 pour 1000, il a une amende, il attend 4 heures, et il récupère son véhicule. S'il a deux substances à bord, comme on dit, du cannabis et de l'alcool, ou de l'alcool et une autre substance, quelle qu'elle soit, eh bien, on va investiguer plus loin, donc on va faire des prises de sang et prises d'urine. Donc on amène à l'hôpital, et là on fait une prise d'urine et prise de sang. Et après on va faire des analyses au laboratoire. Ça c'est mon job. Qu'est-ce qu'on observe chez ce monsieur? C'est que, d'abord, il faut juste mesurer une chose. La police n'est pas là et n'est pas payée pour vous ennuyer. Au contraire. Souvent, les arrestations et les contrôles de voitures se font, mais vraiment, les policiers sont là, ils pourraient dormir au bord de la route, tellement les gens roulent mal. Parce que c'est ça, le gars, il rentre dans un rond-point, vous savez comme c'est les ronds-points, c'est très compliqué, les ronds-points maintenant, parce qu'on doit bientôt faire des études pour faire... Alors, dans le rond-point, normalement, vous rentrez à droite, et si vous avez deux voies, selon la sortie que vous voulez prendre, vous devez aller au milieu ou pas au milieu, ou à l'extérieur. Ça devient compliqué. En fait, on va aller bientôt, il n'y a plus que des ronds-points, donc on n'a même plus besoin de boire pour être bourré, parce que ça tourne tout le temps. Alors, ce qui se passe, c'est que le gars, il rentre dans le rond-point, mais de l'autre côté. Je veux dire, le policier normal, je veux dire, qui a fait vraiment son école de police calmement, il se pose une question, il dit, il y a quelque chose qui ne joue pas. Alors il se dit, est-ce que c'est moi qui ai bu ou lui? Donc il arrête. D'accord? Et on arrive à ce genre de situation. Donc c'est pour ça, souvent les gens les interceptent parce qu'ils font des conneries. Ce n'est pas tellement qu'il y a une chasse aux délinquants. Ce sont des délinquants, mais il n'y a pas une chasse, on les trouve tout seuls. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une alcoolémie à 1,17 pour 1000. Bon, au-dessus de 0,8, il n'est plus capable de conduire. À partir de 0,1,17, c'est déjà considérable comme alcoolémie. Et là, alors, ce qui est terrible, c'est qu'il a un THC. Alors, on va parler après du métabolisme du cannabis. Mais surtout, ce qu'il a, c'est qu'il a 44 microgrammes par litre de THC dans le sang. D'après la loi fédérale qui a été décidée en 2005, une personne est considérée comme incapable de conduire lorsqu'elle a une concentration de THC dans le sang supérieure à 1,5 microgramme par litre. Hein? Mesurer une autre chose, c'est que si vous prenez un gramme, hein, il a 1,17 gramme pour kilo d'alcool dans le sang, un microgramme, c'est 1 million de fois moins. Donc déjà, si on voulait commencer à faire une croix sur le mot drogue douce, on peut déjà enlever le mot S à douce. Hein? On va y aller gentiment. Faut être politiquement correct. Hein? Ensuite, il y a une autre chose, c'est qu'on mesure, nous, toujours les métabolites du THC. Les deux métabolites du THC, c'est le 11-hydroxy, c'est le premier métabolite, c'est un métabolite dit inactif. Non, je dis actif, pardon. Cela signifie qu'une personne qui a du THC à bord et du 11-hydroxy, il est bien chargé. Et là, on sait qu'il a fumé bien et récemment. Ensuite, je suis en train de perdre le truc, j'ai des oreilles qui ne sont pas adaptées à... Et enfin, le troisième élément, c'est le THC carboxy. Et lui, maintenant, on le dose parce qu'il a un intérêt, je dirais, médical, thérapeutique. Dans le sens où une personne qui a dans le sang une concentration sanguine supérieure à 75 ou 50, on dit, mettons 50, de THC carboxy, nous, on considère que c'est un consommateur régulier, donc il fume tous les jours. Donc, si on fait un diagnostic médical, d'un point de vue juridique, ce monsieur, il ne conduit plus, hein. Il conduira quand même sans permis parce qu'ils n'en ont rien à faire. Mais il n'a plus le droit de conduire. Et ce gars-là, c'est un consommateur chronique de cannabis. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui consomme tous les jours. Pour vous donner des chiffres, en Valais, on a le 50% des personnes interceptées au volant avec du cannabis sont des consommateurs réguliers. Donc ça veut dire que c'est comme des alcooliques au cannabis. Ça représente moins de 100 personnes, mais ça fait beaucoup. D'accord. Et c'est ça le problème qu'on a avec le cannabis aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus de gros fumeurs de cannabis. À 100 francs. On va maintenant, je vais poser deux choses. On va parler d'une drogue. Je peux le dire même en Valais, hein. C'est une drogue, c'est l'alcool. Puis après, je vais vous parler du cannabis. L'alcool, c'est la seule drogue que l'on peut consommer avec modération. Au fond, la nature, elle a été raisonnable. Alors même Noé était bourré, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il a retrouvé la terre, il s'est saoulé. Noé s'enivra. Donc vous voyez, biblique. Eh bien, la première et seule drogue que l'on peut consommer avec modération, c'est l'alcool. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a au fond un crédit d'alcool auprès de notre foie et de notre corps. On peut boire, sur notre vie, une certaine quantité d'alcool. Si on boit tout entre 17 et 18 ans, eh bien on ne peut plus boire après. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps. On a toujours tellement de nouveaux vins à déguster. Prenons le temps jusqu'au moins à 80, 85 ans. Ben, ça va être long à l'EMS. Une autre chose qu'il faut savoir, c'est que selon l'OMS, bon l'OMS c'est des Américains, hein, on a le droit, sans danger aucun, de boire 2 verres par jour chez les hommes et 1 verre par jour chez les femmes. Et quand on fait la foire, au maximum 4 verres. En Valais, c'est plutôt 6, parce que quand je dis ça, c'est vrai qu'il n'y a personne. Là, on n'a pas encore pris l'apéro. Hein. Mais à Genève aussi, hein, je peux vous dire, si on regarde les chiffres, en général, c'est partout la même chose, dans le Jura. Ouais. Donc ça veut dire qu'on peut boire de l'alcool avec modération, sans danger. Et il y a une zone verte, il y a une zone grise, et il y a une zone rouge. Et on verra comment fait l'alcool pour nous donner envie de boire. L'alcool, on connaît vraiment, vraiment bien le métabolisme de l'alcool. En général, quand on boit un verre d'alcool, hein, d'ailleurs, j'ai oublié une chose, c'est que un verre d'alcool, c'est 10 grammes d'alcool, en quantité. Donc si vous prenez une bouteille de vin, sur laquelle il est noté 12% d'alcool, ça veut dire qu'il y a 12 grammes dans 100 millilitres. Donc une bouteille de 75, une bouteille normale, c'est 12 fois 7,5. Je vais faire le calcul. fois 0,8, parce que la densité de l'alcool n'est pas de 1. Bref, ça veut dire qu'on arrive à peu près à 60 grammes d'alcool dans une bouteille de vin. Donc si on boit 60 grammes d'alcool, on aura 60 grammes dans le corps. Comme on pèse tous un poids différent, plus on est lourd, plus on va diluer cet alcool, moins on aura une alcoolémie importante. Plus on est léger, plus on va avoir une alcoolémie importante, parce qu'on a plus, on a moins à diluer. Donc en général, c'est un facteur important, le poids. Mais en règle générale, boire, c'est un verre, égale à peu près 0,15 pour 1000 dans le sang. Deux verres, c'est 0,3, trois verres, c'est 0,45, quatre verres, stop, on ne peut plus conduire. D'accord ? Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le système fait que le foie, non, l'alcool va rentrer dans l'estomac. Là, on a un petit avantage, les hommes, c'est qu'on a déjà de l'alcool déshydrogénase dans l'estomac. Donc, on commence déjà à métaboliser l'alcool dans l'estomac. Et ensuite, on commence à absorber l'alcool. C'est pour ça que l'homme supporte mieux l'alcool. D'ailleurs, c'est presque injuste, parce que finalement, nous, quand on boit un verre d'alcool, on absorbe moins d'alcool parce qu'on le prédigère déjà avant. Donc, c'est pour ça qu'on a le droit de boire plus. Parce qu'une femme, elle digère rien. Elle absorbe tout. Ensuite, ça va passer dans le cerveau assez rapidement. Ça va monter à la tête très vite. Et puis, on va éliminer 0,15 pour 1000 par heure. Un alcoolique chronique peut éliminer jusqu'à 0,3 pour 1000 par heure. En moyenne, on élimine entre 0,1 et 0,2. Nous, dans les calculs qu'on fait, on fait 0,15 pour 1000 par heure. C'est ce qu'on fait. Alors, l'alcool, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les alcools ne saoulent pas de la même façon. Actuellement, est vendu sur le marché ce que j'appelle moi une arme de destruction massive, c'est les alcopops. Ils présentent toutes les caractéristiques d'une substance hyper rapide dans l'alcoolisation. Pourquoi ? Parce qu'elles ont trois qualités. Elles sont faiblement concentrées en alcool, elles sont gazeuses et elles sont sucrées. En réalité, un coca-whisky, le mien est sans whisky, hein, mais un coca-whisky est plus saoulant qu'un verre de vin. D'ailleurs, vous savez, on parle toujours de la drogue du violeur, le GHB. La première drogue du violeur, c'est l'alcool. Et les alcopops. J'étais une fois à Montreux au festival de jazz avec l'équipe médicale, puis l'idée, c'était de voir un petit peu les drogues qui circulaient sur le festival. À 10h moins quart, on nous amène une jeune fille de 17 ans dans le coma. Donc on la met en position de décubitus pour qu'elle puisse au pire vomir. Et elle était totalement inconsciente. Il y a son copain qui nous l'a amenée. Il était encore capable de se déplacer. C'était pas très simple, mais il se déplaçait. On avait un éthylomètre. On a fait souffler ce gaillard dans le ballon. Il était à 1,82 pour 1000. Donc on ne sait pas à combien était cette jeune fille. Elle est restée dans le coma, sans risque, parce que finalement, le médecin a estimé qu'il n'y avait pas de souci, jusqu'à 5h30 du matin. On a essayé de la réveiller, elle ne bougeait plus. Donc ça veut dire que si vous vouliez violer une personne comme ça, il n'y a pas besoin de GHB. Donc c'est peut-être la première drogue du violeur, c'est l'alcool. Et l'alcopops, le problème, c'est que ça saoule très vite. Et on verra comment ça fonctionne. On dira même que la seule qualité de la cigarette, c'est de diminuer l'alcoolisation, mais c'est faible, hein, parce que c'est un vasoconstricteur. Mais c'est tout, hein, vous voyez, si on regarde les qualités et les défauts. Et c'est vrai que, par exemple, si vous êtes jeune, ben, vous présentez tous les symptômes, enfin, toutes les caractéristiques faciles pour vous saouler vite. C'est-à-dire que vous êtes, en général, vous n'avez pas mangé, vous buvez un alcopops en grande quantité, et puis vous êtes stressé. C'est idéal. Donc, c'est pas une bonne idée. Alors maintenant, je vais vous raconter comment ça se passe dans certains campus universitaires du monde. Ça, c'est un exemple canadien. Au Canada, ils font ce qu'on appelle le calage. Ou le Century Club. L'idée, elle est simple. Vous êtes une équipe, vous êtes invité. En général, c'est secret parce que c'est interdit. Et le but, c'est de boire en 100 minutes 100 shotters de bière. Un shotter de bière, c'est 43 millilitres de bière à 5%. Ça veut dire ingérer en 100 minutes 172 grammes d'alcool. Donc vous voyez sur le tableau, c'est marqué 0 à 100. C'est pas en Porsche, hein, c'est en alcool. C'est 4 pour 1000. Ça dépend du poids, hein, bien sûr. Mais en gros, et le jeu, c'est ça. C'est si on est capable, en 100 minutes, de boire 100 shotters de bière. Vous m'excuserez du langage, mais c'est un langage efficace. Sans dégueuler, sans pisser et sans partir dans les pommes. Alors, vous êtes membre du Club Central. Là, vous avez le droit d'entrer dans le concours d'admission du Century Gold. Là, c'est chaque 10 shotters de bière, un shotter de whisky. La question qui se pose, parce que évidemment, c'est est-ce physiologiquement possible? Est-ce humain que de vaincre un glou et glou et glou, il est des nôtres, il a bu son verre comme les autres? Est-ce que c'est humain? Qu'est-ce qui se passe quand on boit de l'alcool? Eh bien, en fait, quand on boit de l'alcool, d'abord, on a l'alcoolémie qui augmente. Ça, c'est normal. Ça veut dire qu'on a le sang qui se remplit d'alcool. On oublie trop souvent que l'alcool, c'est 70 kilocalories. 5 verres d'alcool, c'est un Big Mac en calories. Vous voyez, c'est intéressant. À midi, une bouteille de Bordeaux, un Big Mac. Au choix, c'est la même quantité de calories. L'effet après n'est pas le même. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que vous, vous buvez vos calories, votre corps, lui, réagit, il dit « je mange ». Donc je vais sécréter de l'insuline parce qu'il faut que je stocke. Et en sécrétant de l'insuline, comme vous buvez de l'alcool, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire tomber votre taux de sucre sanguin. Donc vous allez faire une hypoglycémie. Vous savez tous que le cerveau ne peut pas vivre sans sucre. Si vous prenez un cerveau, vous sortez un cerveau, vous le mettez sur une table. Vous lui mettez en face de lui un fromage du Valais, le maire de Champs, c'est une région au-dessus de Locre. Là, c'est très joli, très bon le fromage d'ailleurs. Vous mettez ce fromage-là. Vous mettez un steak de vache d'Airain. C'est super. Et vous mettez un kilo de sucre d'Arberg. Le cerveau, il n'hésite pas 4 secondes. Il va vers le sucre. Il ne sait pas quoi faire avec les protéines, il ne sait pas quoi faire avec les graisses. Donc là, vous êtes en train de saouler votre cerveau et vous ne lui donnez pas de sucre. Donc il n'est pas content. Donc ce qu'il vous dit, vous ne l'entendez pas tout de suite, c'est « Eh, dis donc mon gaillard, à manger, j'ai besoin. Au secours. » Mais on boit, on continue. Le truc, c'est que le cerveau, lui, qui n'est pas fou, et il n'a pas attendu l'être humain pour commencer à trouver des solutions, il va appeler le foie au secours. Le foie, c'est votre réserve de glycogène, de sucre, c'est la COP, le Migros, Lidl, ce que vous voulez, Placette, pas faire de, attention, pas de publicité. C'est un petit magasin dans lequel vous avez des réserves de sucre. Le problème, c'est que le foie, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme chez Swisscom. Vous l'appelez, vous dites, dis donc, j'ai besoin de sucre. Puis lui dit, l'abonné mobile désiré n'est pas atteignable pour l'instant. Parce qu'il est en train de métaboliser de l'alcool, tu m'excuses, tu repasses plus tard. Rappelez. Donc pas de sucre, et pas bien. Et on continue à boire. Donc l'alcool continue à monter, votre sucre continue à baisser. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que la température du corps diminue. On a tous eu cette sensation quand on boit, d'avoir chaud. Et c'est normal. Pourquoi? On vasodilate les vaisseaux, donc la chaleur sort. C'est comme si on ouvre toutes les fenêtres de la maison. L'impression de chaleur nous donne l'impression qu'on a chaud, donc on se déshabille, mais en réalité, on commence une hypothermie. Et chaque fois qu'on perd 1 degré de température, enfin 0,5 c'est par 50 grammes, donc 1 degré de température c'est 100 grammes, donc une bouteille et demie, dès qu'on perd 1 degré de température, on perd 10 pulsations minutes cardiaques. Donc vous êtes en train d'entrer en hypoglycémie, votre cœur commence à diminuer son rythme, hein, et vous commencez à avoir vraiment faim, donc ça ne va pas du tout. Après, il y a un autre petit jeu, c'est que dans le Club Century, je vous ai dit, vous n'avez pas le droit de pisser, sinon vous êtes exclu. Qu'est-ce qui se passe quand on boit de l'alcool? Avant, je vous ai dit qu'on est fait d'eau. Si vous me preniez et que vous me mettez dans un presse-citron et que vous me compressez complètement, vous n'allez obtenir que des souvenirs et 60 kilos d'eau. Je suis que de l'eau. Je suis une grande bouteille d'eau. Hein, mesurez bien les choses qu'on est. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps, vu qu'on est la partie la plus importante de l'être humain, c'est l'eau, le cerveau, il a régulé ça de manière très fine. Et il va tout faire pour qu'on ait toujours la même quantité d'eau dans le corps. Quand vous allez courir, vous perdez de l'eau, ça vous donne soif. Quand vous avez trop bu d'eau, au milieu de la nuit, en général, à 3 heures, vous allez aux toilettes. Hein, et là, vous remettez votre volume d'eau à la normale. Quand vous buvez de l'alcool, vous augmentez votre volume de liquide dans le corps. Votre cerveau, qui est un gentil soldat, il dira « Ah, trop d'eau, trop de liquide, moi je suis pas content ». Donc il va réguler la sécrétion de l'hormone antidiurétique et il va vous donner la mission d'aller aux toilettes. D'ailleurs, vous buvez de bière et tout de suite on va aux toilettes. C'est normal. Mais qu'est-ce qu'on perd quand on va aux toilettes? Pas de l'eau. On perd pas de l'alcool. Hein. L'alcool ne part que par le métabolisme hépatique. On perd de l'eau. Donc plus on boit, plus on a soif. Et ils savent ça dans les bistrots. Hein. Tu resserres une tournée, ils ne viennent pas avec de l'eau. Hein. Donc ils savent. Donc vous, vous allez reboire de l'eau, vous avez, du vin, vous avez soif. Donc plus vous buvez, plus vous vous déshydratez, plus vous avez soif, plus vous buvez, plus vous... Ça c'est le problème. L'autre problème, c'est qu'après, au bout d'un moment, il y a la pression sanguine, elle va tomber. Et puis, dès qu'on va attaquer certaines zones fondamentales du cerveau, eh ben, le corps il va plus pouvoir fonctionner correctement. Et vous allez faire un arrêt cardio-respiratoire. Donc c'est pour ça qu'à partir d'un certain moment donné, le cerveau il dit stop. Et on peut mourir. Une bouteille de whisky suffit. Si on regarde comment ça fonctionne dans le cerveau, vous savez, un des éléments fondamentaux de la vie, c'est le regard qu'on a sur nous-mêmes. Et en règle générale, on est très cruel avec nous. Dans le cerveau, dans la zone de cortex, on va parler un peu après du cerveau, mais dans le cortex préfrontal, on a ce qu'on a, c'est la zone du cerveau qui nous dit « ça c'est une bonne idée, non, ça c'est pas une bonne idée ». Mais on a aussi dans cette zone du cerveau, la zone du cerveau qui nous dit « t'es quand même un sacré con, t'es nul, mais t'es pas intelligent ». Tu veux poser une question? Mais mon Dieu, mais si t'es bête d'oser poser cette question, mais faut vraiment oser. Et cette petite voix intérieure qui vous repousse toujours à vous dire, je me méprise, je suis pas quelqu'un de bien, est éteinte quand on boit de l'alcool. Quand j'avais 17-18 ans et que j'allais dans une discothèque, et que je voyais une jolie fille, puis que je voulais l'inviter à danser, il y a des glaces partout dans les discothèques. Je me voyais dans la glace, et je me disais, mon pauvre gars, avec la gueule que t'as aucune chance. Alors je buvais une bière, et là j'étais George Clooney. Il est de la même année. Mais il paraît plus vieux, hein. Le problème, c'est que je suis Superman à un moment, donc bonjour, je m'appelle Nicolas, ça va, tu danses? Ouais, volontiers, salut, attaque. La deuxième bière, Superman, les vols, disons, viennent un peu plus à terre. Au troisième vol, l'autonomie de vol, elle est cuite. Hein, parce que après ça tourne. Et c'est ça qui se passe quand on boit de l'alcool. C'est qu'au départ, on va désinhiber le petit juge intérieur, ce petit animal qui nous dit « t'es pas intelligent ». Tout à coup, on devient « ah, j'ai plus peur de rien, je suis invincible ». Déjà qu'on est assez immortel quand on est adolescent, on devient super immortel. Donc là, on ose tout, mais on ose tout. Jusqu'à se dire, alors qu'avant d'avoir commencé à boire, on se dit « ouais, peut-être c'est pas une bonne idée que je consomme ». Ou alors un verre. Ok, un verre, d'accord, un verre. Mais c'est bon. Tu prends un verre?
Oui. Pourquoi pas?
Hein? Et au troisième verre? Oh, dis donc, mais c'est soif ici. Hein. Beau pays, mais sec, on dit chez nous des fois. Hein. Pas une bonne expression. Mais ça veut dire qu'on travaille comme ça. Parce qu'on est désinhibé, on n'a plus peur de rien. Il ne peut plus rien nous arriver. On est dans un monde, tout va bien. Hein, c'est Disneyland. Et là, on commence à boire. Alors, c'est vrai qu'à ce moment-là, souvent, ce qu'on observe, c'est on prend un peu n'importe quoi. Si quelqu'un vient nous proposer de l'extasie, on se dit « Oh, ben finalement, je n'ai jamais essayé. C'est quoi cette pastille? Oh, c'est une tête de Mickey, tout ça va être rigolo. Allez, hop, un pétard. Jamais essayé, on peut y aller. » On est totalement sans défense, puisque le cerveau, le cortex préfrontal, cette zone du cerveau qui nous dit « Fais gaffe, là, sois prudent. Oui, tu peux faire ça. Ah, » il est éteint. Alors après, ce qui va se passer, c'est plus on boit, plus on va toucher d'autres zones du cerveau. On va toucher l'équilibre. Vous avez vu, les gens, quand ils marchent, en général, sous alcool, ils ne sont pas toujours droits. On va toucher la vue. Plus on boit, moins on voit. Donc c'est vraiment au bout d'un moment, on est dans un tunnel. Donc vous voyez pourquoi c'est difficile de conduire. Après, on va attaquer les zones profondes du cerveau. On va commencer d'abord aussi à attaquer la zone de la parole. Vous avez déjà entendu quelqu'un qui est ivre, qui parle. Il parle une langue qu'actuellement on ne comprend pas encore. Lui se comprend, mais... On va attaquer ensuite les zones profondes du cerveau, la zone, par exemple, du système limbique. On va en parler après. Les zones de nos peurs, de nos colères. En fait, ce qui se passe, c'est si vous êtes en début de soirée, heureux, et que vous buvez, vous allez être bourré et heureux. Si vous êtes triste, on vous a abandonné, hein, vous avez raté un examen, alors vous vous dites, pour oublier tout ça, je me saoule. Moi, vous allez être bourré et triste. En fait, l'alcool ne révèle que ce qu'il y a au fond. Ça ne va pas vous donner du plaisir plus particulièrement ou vous rendre heureux. Ça va juste vous mettre dans l'état dans lequel vous êtes, mais en vous faisant, en cassant des barrières finalement qui ont peut-être perturbé les choses. Ensuite, on va continuer, on va descendre dans les zones encore plus profondes du cerveau et on va arriver dans les zones dites de backup, c'est-à-dire les zones qui fonctionnent, qui font tourner votre corps. Et on peut arriver à un stade où le cerveau il perd toute maîtrise du système et ça déconne complètement. Et le cœur va dans n'importe quel sens, le diaphragme ne sait plus comment il faut avancer, les muscles cardio-pulmonaires, enfin les poumons intercostaux, ils sont perturbés, et vous faites un arrêt cardio-respiratoire. Donc dans ce contexte-là, le cerveau, il a deux mécanismes de protection. Le premier, c'est, il vous fait vomir. Donc l'avantage, c'est quand on vomit, on ne boit pas. En tout cas, c'est difficile. Puis le deuxième, c'est qu'au bout d'un moment, quand il vous a dit depuis un moment, dis donc, j'ai soif, j'ai faim, et je peux plus, parce que ça tourne dans tous les sens. Là, j'ai l'impression qu'on est 30. il dit, bon, vu qu'il ne comprend rien, ce stagné, je vais couper le contact. Et vous partez dans le coma. L'avantage dans le coma, c'est qu'on ne boit plus. Le problème dans le coma, c'est qu'on est en train de passer, et c'est marqué à côté avant, on est proche de la mort. Et on joue au poker avec la mort. Et elle a des cartes qu'on n'a pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand les gens font du binge drinking, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils boivent très vite beaucoup d'alcool, qui va venir très vite dans le cerveau, et qui va, au fond, shunter, passer à travers certains mécanismes de protection, comme par exemple le vomissement, et va vous amener en coma, et en coma vous fait vomir. Donc quand on est dans le coma inconscient, qu'on vomit, puis qu'on est comme ça couché dehors parce qu'il fait chaud, on est en hypothermie, on est en train de vomir dans la trachée et on s'étouffe. C'est là que je dis toujours aux gens, moi je ne suis pas là pour dire aux gens ne buvez pas ou buvez, je ne suis pas le père de l'humanité, mais ce que je dis aux gens, c'est que si vous voyez un copain qui sort maintenant, on va vers l'hiver, à Genève ça peut être un peu rigoureux, eh bien, si quelqu'un sort bourré, ramenez-le dedans. Tant pis. Au pire, appelez une ambulance. C'est toujours mieux d'amener un enfant, un jeune, un adolescent à l'hôpital pour un coma éthylique qu'un enterrement. C'est toujours plus sympa, les urgences. Bon, maintenant, on va parler du cannabis. Le cannabis, c'est la drogue sur laquelle on a dit tout et n'importe quoi, mais surtout n'importe quoi. Mais pas par volonté de mal faire, par simple ignorance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous voyez, le cannabis tel que vous l'avez connu, c'est le tableau en haut à gauche. Et à côté, le Dream, le Spice, le Maya, le Bonsai, ça c'est le cannabis qui arrive. C'est le cannabis synthétique. C'est du super, super, super cannabis. Le cannabis à côté, c'est les vacances. Mais on verra que ce n'est pas tellement là le problème. Qu'est-ce que c'est le cannabis? Vous savez, ça fait plus de 4000 ans. Depuis que l'humanité, elle existe, on consomme du cannabis. Mais on ne consommait pas comme aujourd'hui. À l'époque, les prêtres assyriens utilisaient, parce que finalement, vous savez que quand on a découvert et quand on a commencé à penser, quand on a commencé à philosopher sur l'origine du monde et sur la vie, les philosophes ont mesuré, et Platon en particulier, il disait, on a une âme prisonnière dans un corps. Pour libérer cette âme de ce corps qui est tant bruyant, il faut trouver des solutions. Alors il y a la méditation, il y a la réflexion, il y a la prière, il y a des tas de choses. Puis, dans le hasard des rencontres que l'homme a fait avec la nature, il a trouvé une plante qui, légèrement fumée, dégage une odeur qui altère l'esprit et qui amène l'âme à s'envoler du corps. Donc, pour parler aux dieux, les prêtres assyriens utilisaient des plantes hallucinogènes comme le cannabis. D'ailleurs, ça s'appelait Ganzigunu, ça veut dire la plante qui emmène l'esprit. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui les jeunes fument du cannabis pour rencontrer Dieu, mais à l'époque, c'était l'idée. Et ce qui se passe avec le cannabis, c'est que c'est une substance, donc un joint, ou la plante elle-même, elle contient plus de 400 molécules chimiques différentes, dont deux grandes molécules chimiques importantes, deux grandes familles, les cannabidiols et les cannabinols. Alors le cannabidiol, il y a beaucoup d'espoir sur le cannabidiol. Il est anti-épileptique, il est cardioprotecteur, il est anti-inflammatoire, il a des tas de vertus thérapeutiques. Le cannabinol, il est psychotrope, uniquement. Quand on fume un joint, les effets anti-inflammatoires sont dus au cannabidiol. Un problème qu'on a avec le cannabis aujourd'hui, c'est qu'il est de plus en plus concentré en THC, parce qu'il est modulé, modifié, transformé, mais pas en cannabidiol. Donc ça veut dire que le joint du 68A, qui est maintenant à Berne comme représentant politique, hein, lui, il a le souvenir d'un pétard qui contenait à peu près en égalité du THC, cannabinol et du cannabidiol. Donc ça veut dire qu'au fond, il y avait un effet protecteur du cannabidiol dans l'effet psychotrope du cannabinol. Donc il y avait une sorte de jeu. Maintenant, on fait des pétards qui sont que THC, peu de cannabidiol. C'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Donc ça, ils ne savent pas encore. Et ça va venir. L'autre chose, c'est qu'on va aller avoir les cannabis synthétiques qui arrivent sur le marché. Mais en fait, le problème avec le cannabis, c'est, comme je disais avant avec l'hydre de Lerne, c'est qu'on est mal en manchait avec ce cannabis, parce qu'on attaque du mauvais côté. Parce que chaque fois, on entend des gens qui disent « Ouais, mais finalement, le cannabis, c'est pas grave. » Le cannabis, c'est hyper compliqué. Vous voyez, par exemple, avec l'alcool, quand on donne de l'alcool à quelqu'un et qu'on mesure dans le sang l'alcoolémie, on sait qu'un verre d'alcool, on va pouvoir regarder un verre d'alcool égale 0,15, deux verres 0,40, 30, etc., etc. Et quand on arrête de boire, l'alcool, on perd. 0,15 par heure. Facile. Le cannabis, c'est beaucoup plus compliqué. Le cannabis est une molécule chimique lipophile. Lipophile, ça veut dire graisseuse. Vous avez déjà fait des spaghettis, hein, vous mettez de l'eau, vous mettez de l'huile d'olive, vous avez vu, ça ne se mélange jamais. Je vous rappelle qu'on est fait d'eau. Alors mettez de l'huile dans de l'eau, ça ne se mélange pas. Quand on fume un pétard, ça va dans les poumons. En quelques secondes, ça rentre dans le sang. Et tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Le sang, il reçoit des gouttelettes de graisse qu'il n'a pas du tout envie d'avoir. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va éliminer ça le plus vite possible. Et c'est ce qu'on voit sur ce schéma. En fait, on voit que le pic avec les petits points ronds, c'est la concentration dans le sang du THC. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a en quelques minutes une concentration extrêmement importante de THC. Et après 30 minutes, il n'y a plus rien dans le sang. Pratiquement plus rien. Et ça va où? Parce que l'effet maximal, il arrive, maximal, j'entends bien, maximal, il arrive à peu près 30 minutes après, au moment où dans le sang, on n'a pratiquement plus de THC. Il va dans la partie graisseuse du corps humain la plus importante. Et ça n'est pas la graisse abdominale, c'est le cerveau. Sur des cadavres et des études faites en France, on a eu après des accidentés de la route, en fait, les cadavres avaient 1,5-2 microgrammes par litre de THC dans le sang, et 30 à 40 microgrammes par litre de THC dans le cerveau. Donc si on voulait vraiment faire une analyse de THC chez un jeune pour voir si vraiment il a consommé, on devrait faire un prélèvement de liquide céphalorachidien ou faire une ponction cérébrale. On devrait faire autrement. Mais ce n'est pas vraiment encore accepté. Hein. Mais on est prêt. Les effets du cannabis, en fait, c'est à peu près tout et n'importe quoi. Pendant longtemps, on a dit... L'alcool rend un peu agressif, amène vers l'autre. Et puis le cannabis, ça rend super calme, gentil, doux. San Francisco, quoi. En réalité, on a de plus en plus de cas de gens qui fument des joints et qui deviennent hyper agressifs. La police, des fois, ils téléphonent. Ils ont intercepté un jeune. Ils ont dû se mettre à quatre dessus parce qu'il était complètement fou. Alors nous, à l'hôpital, on pense qu'il a pris des amphétamines, de la cocaïne, du cat, ou bien tous des stimulants un peu énervants, comme ça. Et en fait, qu'est-ce qu'on observe? Non, il n'a que du cannabis. Bizarre. C'est arrivé plusieurs fois. Et on est un petit peu surpris. Donc ça peut rendre très euphorique, très triste, très agressif, ça peut faire aucun effet. Un effet physiologique qui est, dans tous les cas, c'est une tachycardie. C'est un vasoconstricteur dans certaines zones et un vasodilatateur dans certaines zones. Donc c'est un perturbateur de la circulation sanguine. Il favorise le carboxyhémoglobine. Ça veut dire, vous savez qu'on a des petits transporteurs d'oxygène dans le corps, ce sont des molécules d'hémoglobine. Ben, au lieu de transporter de l'oxygène, quand on fume des joints, on transporte du gaz carbonique. Donc, vous savez que le corps, il a besoin d'oxygène. Mais le cannabis ne n'amène pas d'oxygène. Le cerveau, il a besoin, en plus du sucre, d'oxygène. Donc, ce n'est pas le meilleur ami du cerveau, le cannabis. Après, au niveau du temps, typiquement, c'est quelque chose... moi, je discutais une fois avec quelqu'un qui me disait, avant, je buvais quand je conduisais. Mais depuis que je ne fais plus que fumer des joints, je conduis beaucoup mieux. On peut discuter. Hein. En fait, quand on fume des joints... on a une notion du temps et de l'espace qui est différente. Il est arrivé un accident à Lausanne, dans le tram, à l'époque ça s'appelait le Zoll. Le chauffeur du métro, il a avoué hein, qu'il avait pris son pétard le matin avant de partir travailler, ce qui paraît un peu normal. Et en fait, sur la voie du tram, il a dit à la police, après il a dit « Oui, j'ai vu très loin, très 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 loin, quelqu'un traverser la voie. Mais j'allais très 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 lentement. » Donc j'avais très très le temps. En réalité, il était. Les gens ont vu sur la voie que le jeune a traversé un peu trop tard, c'est clair, mais l'autre, quand il a décidé, parce que le gars a dit oui, je me suis dit, finalement, peut-être qu'il serait intéressant que j'appuie sur le bouton stop ici en haut à droite. Mais il avait passé sur le gars qui est mort d'ailleurs. Donc vous voyez, le cannabis, ça n'aide pas au réflexe. Ça, c'est une chose importante. Mais au fond, je dois vous dire franchement, ça, c'est une discussion qu'on aurait pu avoir en 1968, 70, hein, vraiment, 72 jusqu'en 90 maximum, et après fini. Parce qu'aujourd'hui, ça change complètement. Parce que jusque dans les années 1990, on ne savait pas comment fonctionnait le cannabis. Le THC, on ne savait pas comment ça agissait sur le cerveau. On sait par exemple que l'héroïne agit sur des récepteurs qu'on a dans le cerveau. Nos neurones, hein, 100 milliards de neurones, sont recouverts de petites protéines, ça s'appelle des récepteurs, celui-là c'est comme des oreilles. Et puis notre cerveau, il parle avec des mots, c'est des neurotransmetteurs. Et chaque mot a une oreille. Et il y a particulièrement un récepteur qui s'appelle l'endorphine. Le récepteur endorphine, c'est les récepteurs mu, kappa, delta. Et en fait, on sécrète une endorphine. Donc l'héroïne agit sur ces récepteurs-là, ça on sait. Mais le cannabis, on ne savait pas. Et puis, au fur et à mesure des études, on voit que le cannabis agit sur ces récepteurs à endorphine. Ça, c'est intéressant. Ça agit sur les récepteurs à dopamine, GABA, glutamate, tous les mots intéressants, vous verrez. Ça agit sur les récepteurs à benzodiazépines. On a des récepteurs à benzodiazépines. Et toute une quantité astronomique de récepteurs, et particulièrement, quelque chose qui a surpris beaucoup de monde, ça agit sur des récepteurs à cannabis. En 1990, il y a des équipes de chercheurs qui ont découvert que dans le cerveau, sur nos 100 milliards de neurones, on a une forêt de récepteurs. Mais on en a un particulier qui s'appelle le récepteur CB1. CB1, ça veut dire cannabinoïde binding receptor 1. Ils ont découvert aussi le cannabinoïde binding receptor 2. Donc ça signifie que dans notre corps, on a des récepteurs à cannabis. Donc ça veut dire que quand on fume des joints, ça agit sur des récepteurs qui sont des protéines qui vont moduler l'activité du neurone. Ah, ça c'est vachement intéressant. On a découvert que ces récepteurs de type CB2 sont beaucoup sur le système vasculaire, sur le système immunitaire. Ah, mais on comprend mieux pourquoi quand on fume un joint, ça module l'inflammation, ça diminue la douleur. C'est normal, ça agit d'abord, un, sur les récepteurs à endorphine, à opiacé, et puis ça agit sur des récepteurs du système immunitaire qui, lorsqu'il est surstimulé, fait l'inflammation. Donc c'est normal que quand on fume un joint, ça agisse, puisque le cannabidiol module ça. En 1993, donc c'est pas il y a 30 ans, hein, on a découvert que notre cerveau sécrète un endocannabis. Ça a été la révolution. Ben, ça voulait dire, ce jour-là, on s'est dit, c'est fabuleux. Parce que pendant une année, on a pu se dire, ouais, si on a des récepteurs à cannabis, c'était pour fumer des joints. Mais ça n'a pas duré longtemps. Après, on s'est dit, non, on fabrique nous-mêmes des joints, si on veut, on fabrique notre propre endocannabis, et cet endocannabis va agir sur ces récepteurs, et on sait depuis 2001, donc ça fait 10 ans, 10 ans c'est hier, que ces récepteurs à cannabis et ce système endocannabis régulent l'activité du cerveau. Donc ça signifie que le système endocannabinoïde, il est fondamental. Alors maintenant, on va un peu plus loin. Il sert à quoi, le système endocannabinoïde? D'abord, il régule l'activité des synapses. Vous savez, quand deux neurones parlent ensemble, c'est comme quand deux personnes s'appellent au téléphone. Il y en a un qui dit « Salut, ça va ?» puis l'autre dit « Oui ». Et le fait que l'autre dise « Oui », ça veut dire que nous, on sait qu'il a entendu ce qu'on lui a dit. Puis après, on lui dit « Bon, ciao !» Puis on peut couper le téléphone. Et c'est ce que fait l'endocannabis. C'est un rétro-régulateur négatif. Ça veut dire que dès qu'un neurone a stimulé un autre neurone, il lui dit « c'est bon, on peut s'arrêter là ». Et c'est super mini et fin. L'endocannabis, il est sécrété pendant des secondes, des millisecondes, à des concentrations infinitésimales. Et quand vous fumez un joint, ben, c'est un tsunami. Pour faire une autre image peu politiquement correcte, si chaque neurone, c'est un petit chalet de montagne avec un petit feu de cheminée qu'est l'endocannabis, le cannabis, c'est des bombardements de B-52 de napalm. C'est ça l'effet. C'est du feu dans tous les cas. L'autre chose, c'est que ça régule l'activité de la dopamine. On va en parler après. Ça régule l'activité de la plasticité neuronale. C'est marrant. Plasticité neuronale, ça veut dire construction du cerveau pendant l'adolescence et pendant l'enfance. On commence quand même à se dire, c'est bizarre comme substance. Ça gère l'oubli, la filtration de l'information. Vous savez par exemple que là, je porte un pantalon. Vous avez tous vu, je vois. Heureusement. Eh bien, ce pantalon, rendez-vous compte qu'actuellement, j'ai des récepteurs sensoriels sur la peau, partout, qui sont en train d'être touchés par mon pantalon, qui m'envoient une information au cerveau pour me dire « t'as un pantalon ». Mais c'est sympa, comme ça je sais que je ne me promène pas tout nu. Le problème que j'ai, c'est que je reçois d'autres informations. Qu'il y a cette lumière-là, qu'il y a cette personne-là, je reçois des millions d'informations en même temps. Et au bout d'un moment, mon cerveau, il doit se dire, moi, je dois me concentrer sur une conférence, là. Alors, j'ai un pantalon, c'est bon, hein, j'ai compris. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le cerveau? Il a deux solutions. Soit il dit au récepteur, tais-toi maintenant, je veux plus t'entendre. Mais le problème, c'est que si je marche, puis que je suis un peu maladroit, puis que je me tape, je vais me faire mal sans le sentir. Donc, il faut que je sois toujours actif. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le cerveau? Il oublie. Il n'y a qu'un pantalon qu'on n'arrivait pas à oublier, c'est le pantalon de l'armée, qui piquait tout le temps. Ça, c'était un défi au système endocannabinoïde, c'était le pantalon militaire. Pour ceux qui ont connu, je sais que c'est vrai. Bref, j'oublie. Donc la régulation de l'oubli, cette espèce de filtration qui fait que tout à coup, quand je suis dans le train, vous savez, puis qu'il y a tous ces gens qui téléphonent pour dire « je suis dans le train », hein, On s'en fout, mais ils le disent quand même. Et vous voulez lire quelque chose, tranquillement, vous n'avez personne, dérangez personne, vous voulez juste lire, mais vous n'arrivez plus tellement il y a des gens qui sont en train de dire qu'ils sont dans le train. D'ailleurs, au bout d'un moment, vous le savez aussi. Eh bien, vous allez oublier toutes ces informations fondamentales qui sont autour de vous pour vous concentrer sur la lecture que vous avez devant. Et ça, c'est la gestion du système endocannabinoïde. C'est un super copain pour se concentrer. Donc, c'est un élément juste essentiel. Après, ça régule l'appétit et le poids. Ça, c'est génial. Il y a quelques années, vous savez qu'aujourd'hui, on traite l'obésité comme une addiction, comme une dépression nerveuse. Ça devient une maladie où on ne regarde plus la nourriture qui devient une drogue, mais on regarde la personne dans la relation qu'elle a avec la substance. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que lorsque l'on stimule le système endocannabinoïde, ça donne faim. D'ailleurs, en fin d'après-midi ou en fin de matinée, quand on commence à avoir faim, c'est le système endocannabinoïde qui va activer une quantité astronomique d'autres hormones dans l'estomac qui vont donner des signaux qui vont vous faire avoir envie de manger. Et dès que vous avez mangé, point. D'ailleurs, un des signes qu'on fume des joints, c'est qu'on a faim. Bon, le problème, c'est que l'adolescent, comme il bouffe tout le temps, c'est difficile, il faut être faim quand même dans la distinction. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui se sont dit, mais alors c'est super, traitons les patients obèses avec un médicament qui bloque le système endocannabinoïde, un antagoniste. Alors on a développé, chez Sanofi Pasteur, suite à des tas d'autres études, qui a développé le rimanoban, vendu sous nom Acomplia, et qui a été utilisé chez les patients diabétiques et obèses. Et qu'est-ce qui a été observé? C'est qu'en fait, les patients perdaient du poids. Donc c'était fabuleux. Une pastille de rimanoban, 2 kilos. Une pastille, 2 kilos. Le rêve. La panacée. Donc les gens ont commencé à donner ce médicament aux patients obèses mais gravides, avec une comorbidité importante. Et on a vu que leur body mass index descendait, que leur diabète diminuait. Ah, ils avaient un meilleur hémoglobine glyquée, ils avaient une meilleure glycémie, tout allait mieux. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas vu arriver cet effet secondaire, juste derrière les virages, là, c'est que les gens, en perdant l'appétit, ils perdaient l'appétit de vivre. Ils avaient des dépressions graves. Ils avaient des envies de suicidaires. Donc le médicament a été retiré du marché. Mais c'est une piste. Ça signifie que le système endocannabinoïde est un régulateur d'un élément fabuleux, l'envie. Maintenant, comment réguler quelque chose que la nature nous a donné avec finesse? Parce qu'on est quand même toujours un peu avec nos gros souliers. Hein, on est un peu comme quand on roule avec un Hummer dans une petite ruelle d'une petite ville de Genève. Ça prend de la place. Ça joue un rôle, après l'endocannabis, sur l'implantation de l'utérus, de l'embryon dans l'utérus. Ça régule le chemin du spermatozoïde vers l'ovule. C'est marrant. Hein, ça régule la spermatogénèse. Ça régule l'activité de beaucoup d'hormones. Bref, c'est essentiel à la vie. Et si on prend un cerveau humain et qu'on cherche une zone où il n'y a pas de récepteur endocannabinoïde, il n'y a pas. Alors qu'il n'y a pas dans toutes les régions des récepteurs à d'autres neurotransmetteurs. Alors que l'endocannabinoïde système, il est partout. À penser que c'est le plus important du système. On en a même sur les vaisseaux sanguins, dans le cœur, partout, partout, partout. Donc c'est un élément essentiel. Une chose qui est assez... Donc, on fait un peu de philosophie. Hein. Vous voyez, une hypothèse de travail, comme j'ai dit avant, a été de se dire, mais alors, si l'alcool est une nourriture, que quand on prend un endocannabis, enfin, quand on bloque le système endocannabis, est-ce qu'on pourrait couper l'envie de manger? Donc, par conséquent, est-ce qu'on pourrait couper l'envie de boire? Si l'alcool est une nourriture. Donc, ils ont fait des expériences. Et qu'est-ce qu'ils ont observé? Oui, quand on bloque le système endocannabis, on boit moins d'alcool. Ils ont fait ça sur des rats. Et en fait, ce qui est joli, c'est que si on fait des souris knock-out, c'est-à-dire que vous voulez modifier génétiquement, de manière à ce qu'il n'y ait pas de récepteur endocannabinoïde dans le système, ben c'est des rats, des souris qui boivent moins d'alcool. Et en vieillissant, le système endocannabinoïde fatigue un peu, et on a moins envie de boire de l'alcool. Enfin, les vieux rats. Maintenant, le spice. Alors, quand on invente une substance antagoniste, c'est-à-dire une substance qui bloque le système endocannabinoïde, pourquoi ne pas inventer une substance qui stimule le système endocannabinoïde? Le THC est une substance, ça s'appelle un agoniste, c'est une substance qui active le système endocannabinoïde. Alors, il y a des gens, et ça se commande sur Internet, vous voyez, c'est $40 les 30 grammes, hein, donc c'est rien du tout. Il suffit d'un milligramme pour se faire un voyage qui peut être fatal. Donc, c'est pas cher. Et vous voyez, ça s'appelle Demon Smoke, Wild Lettuce. Et souvent, en fait, il faut savoir, si vous retournez l'étiquette, c'est écrit derrière Not for Human consumption. Donc ils disent quand même ne pas utiliser chez l'humain. Parce qu'ils disent souvent que c'est de l'engrais, alors c'est pour les plantes. Et il y a beaucoup de gens qui se prennent pour des plantes. Et en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que aux États-Unis, il y a une épidémie. Sur la côte Est, New York, Boston, et puis en Californie, c'est une catastrophe. On a, voyez, entre 2009 et 2011, passé de, pour les 911, les emergencies, de 93 cas à plus de 6000 cas. Hein? Donc c'est exponentiel. En Valais, on en a déjà, du spice. On a nos premiers cas maintenant. Ça s'appelle aussi des selles de bain. Alors quand vous recevez des selles de bain, ce n'est pas pour vous laver. Surtout quand c'est made in China, puis c'est dans un petit sachet où c'est marqué ne pas utiliser pour l'être humain. C'est du spice. Ça peut être différentes drogues, dont ça. Et le problème de ça, c'est que le THC, il va se lier, stimuler le système endocannabinoïde d'une façon correcte. Lui, c'est ce qu'on appelle un agoniste total. C'est-à-dire, c'est un super surstimulant. S'il faut 9 à 10 mg de THC, il faut 1 mg de spice pour activer le système. Et on a actuellement deux cas de décès. Le premier cas, c'est à San Francisco. Une dame, une jeune femme qui est rentrée le soir dans son appartement. Et vous savez, San Francisco, c'est un peu la montagne, mais en pleine. Et elle a pris son spice, et après, elle a vu un dragon dans son appartement, ce qui n'est pas commun, quand même. Donc, elle a eu peur, ce qui est normal. Et elle a fui par la fenêtre. Le problème, c'est qu'elle était au deuxième étage, et qu'elle ne volait pas. Donc, elle est décédée. La pauvre. Et l'autre cas, c'est en Allemagne, un jeune qui a fumé un pétard, avec du spice dedans, et il a fait un infarctus. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est très mauvais pour le corps et le cœur. Et on a des cas où les descriptions, les symptômes qu'on observe chez les patients qui consomment du spice, au-delà d'hallucinations bizarres, de peur, panique, terrifiant, tout est un peu exagéré, c'est une sorte de dystonie musculaire avec des sensations de paralysie totale. Un policier me disait, on voulait lui faire signer un truc, mais il n'arrivait pas, il était complètement paralysé. Donc c'est des symptômes qui... En fait, ça ne donne pas trop envie, hein. Voilà. Ben voilà. So what? On fait quoi avec ces infos? On peut faire le joint à 100 balles, la cocaïne à 200, l'excès de vitesse à 300. Mais en fait, on fait quoi avec tout ça? En fait, on fait rien. Parce que chaque fois qu'il y aura une nouvelle substance, on pourra faire des études pharmacologiques sur la substance. Est-ce que ça résoudra un problème? Je pense pas. Par contre, si on essaie de comprendre comment on fonctionne, alors on fait un pas en avant. Et sur ce pas-là, je vais boire un peu de coca. Vous m'écoutez, mais ça donne moins soif que boire, que parler. Et vous êtes en train de respirer 15 fois par minute. Votre cœur bat 60-70 pulsations minute. Vous avez une température corporelle qui est en train de gentiment monter parce que l'ambiance est un peu plus chaude qu'avant. Mais c'est à peu près 36 degrés. Vous êtes en train de digérer, j'espère, ce que vous avez mangé. Et puis, tout va bien. Il n'y a pas de problème de syncope et tout. Ça, c'est le système reptilien qui gère. Quand vous allez vous coucher ce soir, vous n'allez pas devoir vous dire « pas oublier de respirer 15 fois par minute, le cœur 70 fois, merde, je suis à 68, 80 ». Parce qu'on compte les moutons, on compte pas les pulsations pour s'endormir. Faites attention. Hein. Ça, c'est le cerveau reptilien. Le deuxième cerveau, c'est le cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est le cerveau qui donne la couleur à notre vie, je dirais. C'est le cerveau de nos émotions, de nos peurs, de nos envies, de notre mémoire, de nos plaisirs. C'est aussi le cerveau qu'on utilise le plus au volant. Vous savez, quand quelqu'un vous coupe la route, par exemple, typiquement, nous, on est en Valais, on roule tous bien en Valais. Quand des genevois viennent chez nous, et vous êtes toujours les bienvenus, hein, mais je ne sais pas pourquoi, sur la route, vous êtes insupportable. Hein. Et en règle générale, quand un Valaisan se fait couper la route par un genevois un peu perdu, parce qu'il ne sait plus si pour monter à Nio qu'il faut passer par là ou par là, en général, le bon Valaisan ne va pas commencer à dire « Oh, le pauvre genevois qui est perdu ici ». Non, on utilise un vocabulaire un peu plus chargé, que je m'abstiens d'utiliser parce qu'on n'est pas en situation. Et ni en Valais, je suis en minorité ici, donc je ne peux pas. Mais bref, ça c'est le cerveau limbique. Après, on a le cortex, le néocortex. Ça c'est le cerveau qui nous a permis d'aller sur la Lune, qui nous permet de réfléchir, qui nous permet de poser des questions sur « qu'est-ce que je fais ici ? Pourquoi je suis là ? À quoi ça sert tout ça ?» C'est le cerveau qui permet de parler, d'écouter, d'entendre, d'avancer. Et c'est joli parce que, en fait, je m'excuse pour la technique, je dis j'ai les oreilles un peu bizarres, le cerveau, il doit vivre avec ces trois étages. Ça veut dire que, des fois, quand on est un peu énervé, il y a le limbique qui boue, hein, et après il y a le cortex qui dit, mais oh, Je le vois, tu n'as quand même pas t'exciter. Mais... Hein? Puis là, on se calme. Mais d'abord, on a bouillonné. C'est humain. C'est le limbique. Et on doit vivre avec tout ça. Dans ces étages-là, c'est des échanges. Il y a une folie terrible dans tout ça. Vous savez, on n'a pas attendu la science pour inventer la tripartition du cerveau. Les anciens, ils pensaient que l'âme était en trois parties. Il y avait l'âme du paysan, l'âme qui gère notre vie végétative, qui gère nos instincts, qui gère notre vie, qui nous permet d'avancer. Et après, il y a l'âme guerrière, l'âme qui nous permet d'avancer, de nous battre, de vouloir combattre, pour écraser le faible ou protéger le faible. Cette âme combattante qui nous donne toujours cette envie d'avancer. Puis après, il y a l'âme du magicien, du prêtre, l'âme qui nous pousse vers une transcendance, hein, vers un dieu ou vers au moins un idéal. Et en fait, l'âme du roi, c'est l'équilibre de ces trois âmes. Donc on n'a pas besoin d'une neurobiologie. Oui, alors, ce qui se passe, c'est que pour vivre avec ces trois étages, le cerveau, il a construit une chose fabuleuse. C'est qu'il s'est dit, ce petit animal humain, pour qu'il vive, il va falloir que je lui donne des missions. Et une mission particulière, c'est qu'il faut qu'il vive. Donc pour vivre, il faut appliquer un principe. C'est errare humanum, fait perseverare diabolico. Donc tu peux te tromper, mais pas deux fois. Et pour ne pas se tromper deux fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire notre mémoire. Donc le cerveau, il nous a donné la mémoire. Et pour qu'on se souvienne des choses, parce qu'il est super sympa, il nous a donné, associé à la mémoire, le plaisir. Le plaisir, c'est un cadeau. Et quand on a du plaisir, on se souvient. Et on refait. Et la nature, elle a construit les choses de manière à construire une sécrétion de dopamine de manière importante pour stimuler une envie répétée. Et typiquement, la nature, elle a donné à l'être humain et à l'animal en général deux missions fondamentales. La première, c'est qu'il faut qu'on se nourrisse. Et deux, il faut qu'on se reproduise. C'est normal. C'est comme ça. C'est biologique. Et en fait, quand on a une activité de reproduction ou de nutrition, on a du plaisir. Et le mot que la nature nous a donné, et qu'on entend bien, et qu'on comprend bien, c'est le mot dopamine. Dopamine, ça veut dire plaisir. Dès que j'ai de la dopamine, j'ai du plaisir et j'ai envie de refaire. Maintenant, on a évolué, hein. Lire un livre, étudier, faire un travail, rencontrer des gens. Toutes ces choses-là nous donnent du plaisir. La nature, elle nous donne toujours envie d'apprendre des choses nouvelles grâce au plaisir qui stimule notre mémoire et qui redonne à nos envies des envies de vivre. Et en fait, ce qu'il y a d'important, c'est là qu'on a supprimé la notion de drogue douce ou de drogue dure, c'est que toutes les drogues agissent sur la dopamine. Donc ça veut dire que le talon d'Achille de l'humanité, c'est la dopamine. Parce que quand j'ai un plaisir naturel, je sécrète de la dopamine. Et quand je prends une drogue, comme de la nicotine, de la cocaïne, du cannabis, de l'alcool, même de la caféine, toutes ces substances vont stimuler de ma dopamine. Mais de manière beaucoup plus importante que le plaisir naturel que j'ai. Donc vous imaginez, vous avez un cerveau, ça fait 2 millions d'années qu'il est à l'université, qu'il étudie plaisir, dopamine égale, vas-y refais-le. Et tout à coup, on lui fout une lampe torche à 2000 watts, et il est complètement illuminé. Il a un plaisir qu'il n'avait jamais imaginé voir. Il se dit, mais c'est fabuleux. Qu'est-ce que je me casse les pieds avec des petits plaisirs du genre manger un bout de chocolat, alors que là j'ai 1000 fois plus de plaisir avec des amphétamines. Il est où le type qui me donne ça? Je veux. Et je deviens très vite, parce que mon cerveau est naïf, l'esclave de cette substance. Et en fait, quand on regarde le cerveau d'une personne en général, entre guillemets, dite normale, voyez en bas les personnes normales, on ne sait pas ce que c'est une personne normale, mais en principe ça existe. En fait, on voit que la zone rouge, c'est la zone où est stimulée, sécrétée la dopamine. On voit que chez le patient alcoolique, obèse ou cocaïno-dépendant, la zone rouge disparaît. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, notre cerveau, il s'adapte très vite. Il faut quelques secondes à un neurone pour moduler sa structure quand on prend de la cocaïne. En fait, le cerveau, lui, il n'est pas habitué à tant de plaisir. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout faire pour diminuer la stimulation de cette sursubstance. Donc il va enlever les récepteurs à dopamine, par exemple, il va diminuer la sécrétion de dopamine, et il va diminuer le plaisir qu'on a. Et en fait, plus on prend des drogues, moins on a du plaisir. Parce que le cerveau, il ne se peut plus, ça. C'est trop. Et il se protège. Maintenant, il faut dire que le cerveau a une qualité. C'est qu'il pardonne. Si on arrête de faire, d'avoir cette relation d'amour avec la substance, parce que finalement ça, regardez, alors, franchement, un gars qui fume une cigarette, c'est pas une relation d'amour. Hein, il fait froid dehors, vous avez 5 grammes de tabac, et tout à coup, par des tempêtes terribles, ces 5 grammes de tabac vous hèlent. Viens mon chéri, embrasse-moi. Et vous sortez comme un con pour aller fumer une cigarette. C'est qui le maître ? Hein ? Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on arrête de fumer, quand on arrête de prendre des substances, on va récupérer la situation avant, mais avec une fragilité importante. C'est-à-dire que si on retombe plus vite. Et ça, c'est quelque chose d'assez fondamental. Donc là, on arrive à une notion qui s'appelle l'addiction. Vous savez qu'avant, pendant longtemps, un alcoolique, c'était considéré comme quelqu'un qui est la lie de la société. Il a voulu boire, il boit trop, bah, hors de nous, pas des rétros. Or, est-ce qu'il est responsable ? Est-ce qu'on condamne les diabétiques ? Est-ce qu'on met hors de la société, un temps les lépreux, oui, mais par peur, les cancéreux ? Aujourd'hui, dire qu'on a une maladie, c'est toujours un petit peu... On est mal à l'aise. Hein ? Déjà qu'on va coûter de l'argent à la société, ça ne va pas aller. Donc, aujourd'hui, l'idée est d'approcher l'addiction, la relation qu'on a bizarre avec les substances de manière différente, en disant, mais en fait, un malade, ça se soigne, ça ne se juge pas. Et l'addiction est une maladie, et c'est une maladie qui a une particularité, c'est qu'elle se développe entre 15 et 25 ans. Et ça, c'est essentiel. Et ça, c'est des découvertes qui sont récentes. Et aujourd'hui, quelqu'un qui consomme de l'alcool, de manière exagérée, un consommateur de cannabis assez rapidement, un consommateur de cigarettes assez rapidement, un consommateur de cocaïne, un consommateur de n'importe quelle substance, un consommateur accro à Facebook ou à son iPhone, c'est les mêmes phénomènes. C'est des phénomènes qui se construisent pendant l'adolescence et qui vont amener à ce qu'on appelle une addiction. Et en fait, la personne addict n'a pas envie, mais ne peut pas s'empêcher. Un alcoolique, il n'a pas envie de boire de l'alcool. Il ne peut pas s'empêcher de boire. Un fumeur de cigarette, il n'a pas envie de fumer. Il ne peut pas s'empêcher de fumer. En fait, on ne sait pas qui fume qui. Dans ce contexte-là, il y a une chose qui est fabuleuse, c'est que c'est une maladie du développement qu'on développe entre 15 et 25 ans. Il est rare, mais jamais impossible, de développer une addiction après 30 ans. Mais c'est surtout entre 15 et 25. Et ça, si on regarde, entre 15 et 25 ans, c'est la période de la vie où on fait le plus de stupidité. S'il y a une période dans la vie où on boit beaucoup, on fume beaucoup, on essaye beaucoup de choses, c'est entre 15 et 25 ans. Et la question qui se pose, mais c'est pourquoi ? Vous savez, quand vous voyez un adolescent, et vous regardez 2 ans avant un enfant, c'est bizarre comme ça change. Hein ? Moi, j'allais skier avec mes enfants à la Plaine Morte. Alors au départ, ils sont derrière en criant « Papa, va pas trop vite ». 2 ans plus tard, c'est moi qui suis derrière et je dis « Descends pas trop vite, tu vas tomber ». C'est les mêmes gamins. Hein ? Les skis sont plus grands, mais c'est les mêmes. Hein ? Ils sont tout à coup passés du stade. Ouh, la pente ici. Ah, oh, il ne peut rien m'arriver. Je suis immortel. Et l'adolescent est immortel. Pourquoi ? Alors quand on était gamin, nous, les adolescents de l'époque, on était bêtes. Hein, c'était l'âge bête. Nos parents, à la limite, disaient, bon, bah, écoute, on se retrouve d'ici une dizaine d'années. Hein, on va supporter ça, on te nourrit. Parce qu'à l'adolescence, c'est plutôt un aspirateur à nourriture qu'autre chose. Ça coûte cher quand ils sont là. Et c'est normal, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils se construisent. Et puis, c'est un élément assez particulier, c'est que c'est très vite en colère, un adolescent. Hein. Ça utilise beaucoup le système limbique. Quand un adolescent vient vous dit, papa, c'est jeudi soir, ce soir, j'aimerais bien sortir, on est une équipe, on a une petite soirée. Si vous lui dites, non, tu sais, tu as des mathématiques à étudier, en règle générale, la réaction de l'adolescent, c'est pas dire, oh, mais la chance que j'ai d'avoir un papa comme ça qui me propose d'aller travailler. C'est plus agressif, le combat. Hein. Il y a quelque chose qui passe par. Hein. On peut tourner. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pendant longtemps, on n'a pas su pourquoi c'était comme ça. Et un jour, on a réfléchi, parce qu'il y en a qui réfléchissent des fois. En fait, ce qu'on a découvert, en 1990, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il y a un type aux États-Unis, il s'appelait Guide, et il a dit, ah, mais j'aimerais bien comprendre pourquoi des gens développent des pathologies psychiatriques. Et en fait, il a fait une chose simple, c'est qu'il a pris des scanners, quand on a développé le scanner, puis il a pris des photos d'enfants, de l'âge de 3 à 4 ans, jusqu'à 27-28 ans. Puis il s'est dit, c'est génial, on va regarder tous ces enfants-là, ensuite on va regarder tous les gens qui ne sont pas diagnostiqués avec une pathologie psychiatrique, quelle qu'elle soit, puis on regarde tous les cerveaux normaux, Puis après, on m'a comparé avec les cerveaux de patients, souvent de schizophrénie, ou de paranoïa, ou de chorée de Huntington, enfin, toute pathologie atteignant le cerveau. Et qu'est-ce qu'ils ont observé? C'est que sur à peu près 900 scans, sur 25 ans de travail, eh bien, ce qu'ils ont observé, c'est que, et ça c'est une révolution, c'est que le cerveau se reconstruit. Avant, on disait, jusqu'à 20 ans, le cerveau il se construit, puis après, un milliard de neurones par année, on perd, et puis quand on boit, c'est deux, et puis... Puis en fait, moi, je devrais être complètement sénile maintenant. Mais heureusement, non. En fait, vous voyez que jusqu'à 12-13 ans chez les filles, et 14-15 chez les garçons, le cerveau grandit. Il construit des connexions, c'est vraiment un câblage magistral qui est fait. Et à partir de 15 ans, on élague, on coupe, on perd jusqu'à 40% de sa matière grise. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, le cerveau de l'adolescent, c'est comme une pierre, enfin une terre d'argile, dans laquelle vous allez sculpter la statue intérieure de celui que vous serez plus tard. Vous voyez, pour vous parler, là, ça a l'air facile de parler. C'est assez facile, disons, de parler. Mais je ne vous rendais pas compte du travail que fait mon cerveau. D'abord, un, je dois activer la zone de mes idées. Alors, je ne sais plus, c'est l'air de Broca ou l'air de Wernicke, ce n'est pas important. Et je dois stimuler l'air de mes idées, associer mes idées à des mots, aller chercher le mouvement musculaire de ma langue et de mes cordes vocales pour faire sortir le mot que je veux par rapport à l'idée que j'ai associée, tout en vous regardant et en regardant ce que je dis. Donc, il ne faut pas oublier, donc je dois me souvenir en plus. Et moi, je parle avec les mains, donc je dois encore activer toute une zone de la musculature des avant-bras. Donc, c'est un énorme travail. Et cela se fait dans des milliardièmes de secondes. Et bien, pour ça, moi, j'ai travaillé. J'étais à l'Uni, au collège, j'ai bossé tranquillement, mais j'ai bossé. Et j'ai construit des connexions. J'ai pas développé, par contre, les talents de footballeur. C'était désespérant parce que je m'appelais Donzé, comme Jean-Claude Donzé le gardien, mais j'ai aucune idée en football. Donc ça m'a pas aidé au collège, parce qu'il me mettait toujours au but, moi j'avais pas envie, donc j'ai pas du tout travaillé cette qualité-là. Donc en fait, je n'ai développé des connexions neuronales que dans les zones que j'avais envie de stimuler, puis j'ai perdu les autres. Et le cerveau, en fait, pendant l'adolescence, ce que l'on construit et ce que l'on stimule va être construit, ce que l'on stimule pas va pas être construit. C'est normal. Et c'est pour ça que l'adolescent, il est d'une pure modularité dans sa capacité de se construire. Et c'est l'âge pendant lequel on est le plus apte à apprendre. C'est entre 15 et 25 ans. C'est fabuleux, cette période de la vie. D'ailleurs, c'est bizarre, mais je crois que c'est la période pour laquelle on fait les études. Là, ils veulent qu'on paye des impôts plus vite, donc ils voudraient qu'on finisse des études à 15, 16 ans, et puis qu'on soit expérimenté, comme ça on peut payer directement l'ABS et tout. Hein. C'est vrai que c'est ça la société idéale, c'est des gens formés à 10 ans et qui meurent à 50. Et en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on a un cerveau qui se construit de l'arrière vers l'avant. Et l'avant, c'est le cortex préfrontal, c'est la partie du cerveau qui vous dit « ça c'est une bonne idée, ça c'est pas une bonne idée ». Or, chez les adolescents, c'est en travaux. Donc un adolescent qui arrive avec son vélo moteur à 80 dans un virage, et qui va se dire tout à coup « est-ce que je passe ou est-ce que je passe pas ?» Il va envoyer l'information dans la zone où c'est marqué « guichet fermé pour cause de travaux ». Donc, il va devoir réfléchir instinctivement. Alors, s'il a du bol, ça passe. S'il n'a pas de bol, ça passe pas. Et je dis toujours, le cortex préfrontal des adolescents, c'est les parents. On sert à ça. C'est terrible pour les adolescents. Mais c'est comme ça. Pour jouer un petit peu avec la neurobiologie, il a reperdu, mon petit. Ça, c'est la distance, c'est pour ça. Mais là, je veux que je boive quelque chose, c'est ça. C'est intéressant, un truc là. Ça, c'est génial. Revenons à notre cannabis. Si on sait que le THC, la substance active du cannabis, agit sur la maturation du cerveau pendant l'adolescence. Bon, ça, il n'y a plus qu'à Berne qui savent pas, mais en principe, on sait maintenant. On sait que l'anandamide, qui est un endocannabinoïde, va stimuler les récepteurs de type CB1. Ça va activer la sécrétion de glutamate. Ça va activer la maturation du cerveau. Fabuleux. Ah, on est content. Maintenant, vous prenez du THC. Il va agir sur le cannabinoïde récepteur type 1 comme l'anandamide. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup plus de stimulation. Donc, on a une surstimulation du glutamate. Le glutamate surstimulé devient neurotoxique. Donc, il détruit les cellules du cerveau. Voyez ? Et on sait aujourd'hui que quand on consomme du cannabis pendant l'adolescence, on perturbe la maturation du cerveau. C'est tout. Après, cholera demonstrandum, c'est fait. Hein. Et si on regarde des photos de cerveau de rat, un rat, il évolue comme nous. Hein. Avant l'adolescence, il a une quantité astronomique de connexions neuronales. Un rat qui ne fume pas de pétard, le rat... Hein, le rat civilus, hein, normal, j'ai 26, comme ça. On voit qu'après sa période d'adolescence, il a perdu une certaine quantité de connexions neuronales. Mais il reste encore, disons, on dirait de la lumière. Alors qu'un rat qui a consommé des joints, on voit qu'il y a une perte massive des connexions neuronales. Vous voyez ? Ça pose des questions quand même. Et puis, si on continue dans cette histoire-là, le système endocannabinoïde, il joue sur la construction du cerveau, donc la neurogénèse. Sans rentrer dans les détails, il y a une relation entre le système endocannabis et la dépression. Et par exemple, si on regarde, je ne vais pas me perdre là-dedans, le système endocannabinoïde aide les neurones à construire leurs axones. C'est 100 milliards de neurones, vous imaginez le monde qu'il y a là-dedans, hein, sur un espace assez petit. Et juste pour vous montrer encore une chose avec les adolescents, quand un père discute avec son fils sur une sortie, le père travaille avec le cortex préfrontal et l'adolescent avec la zone amygdalienne. C'est la zone colère, je ne suis pas content, t'es un con. Enfin, alors, dans ce contexte-là, on va se travailler un tout petit peu sur l'addiction. En fait, quand on commence à consommer des substances, c'est comme une histoire d'amour. On tombe amoureux. On tombe en amour. Hein, la première cigarette, c'est un baiser magnifique. Le premier joint aussi, le premier verre d'alcool, c'est embrasser. Et c'est un plaisir absolu. Ce que l'on ne sait pas, c'est que la personne dont on est en train de tomber amoureux est une maîtresse jalouse et exclusive. La deuxième phase, c'est pour toutes les substances. On devient dépendant. On devient dépendant à l'alcool. On devient dépendant au cannabis. On devient dépendant à la cigarette. On devient dépendant à certains médicaments. C'est la tolérance, c'est un mécanisme physiologique pour tout. Il y a d'ailleurs certains symptômes qui s'observent. Vous partez en vacances, 2 semaines, au sud de la France. À 11h, après votre bon petit déjeuner, votre sport, c'est-à-dire monter le matelas sur la plage, vous prenez un pastis. Puis après, le rosé est quand même sympa dans cette région-là. Après, il y a le petit rouge qui est pas mal parce que le patron vous a dit qu'il avait une cave personnelle. Après, vous allez dormir. Après, le soir, il y a le pastis, c'est quand même sympa, puis il fait chaud. Après, on prend un petit rosé, après, on prend un petit rouge. Après, bah, finalement, on finit avec un petit pastis parce que ça désaltère. Puis ça, on fait pendant 3 semaines ou 2 semaines. On rentre ici. On a des syndromes de manque. Bah, tout à coup, on n'a plus le pastis, plus le rosé, plus le rouge, plus le matelas, plus rien. Et on manque, on est en manque. Et ça s'appelle la tolérance. L'avantage, c'est qu'on revient vite de ça. Et la troisième étape, et ça ne se construit pas dans tous les cas, c'est l'addiction. Et l'addiction, en fait, c'est justement la cigarette qui vous tire dehors, la bouteille qui vous appelle. C'est elle qui vous débouchonne, c'est pas vous. Hein? Et c'est un désir puissant et compulsif. À l'hôpital du Valais, entre le laboratoire et l'hôpital, on a ce qu'on appelle la nicotine highway. Je vais appeler ça comme ça. Alors c'est là que tous les gens, maintenant, qu'on ne peut plus fumer dans l'hôpital, dans les chambres d'opération, on ne peut plus, hein, c'est quand même mieux. Hein. Eh bien, on a cette zone où les gens, ils viennent. Alors vous imaginez, il y a des patients qui sont opérés, ils ont leur goutte à goutte, puis ils sont comme ça, et puis ils font un quart d'heure pour sortir, ils fument leur cigarette, puis ils repartent un quart d'heure, puis des fois, en route, ils croisent un copain, ah, on va fumer une cigarette, ils repartent, comme ça. Donc, vous savez qu'ils font le paquet sur Nicotine Highway, et ils n'arrivent pas à arrêter. Donc, au départ, ils se disent, je vais fumer une cigarette, puis ils ont fini, ils en ont fumé 4 ou 5. Ils n'ont plus le sens. J'en fume combien ? 1, 2, 3, 4. Pour toutes les substances, c'est la même chose. On a une tolérance, on a un abandon des autres sources d'intérêt. Souvent, c'est vrai que ça, c'est le problème. Un alcoolique chronique. Et c'est là le côté jaloux et exclusif. Un alcoolique qui dit à sa cigarette, à sa bouteille, stop, maintenant j'arrête de boire. Quelqu'un qui a bu beaucoup, la bouteille, elle va lui dire, dis-le mon petit coco. Viens ici. Qui c'est le chef ? Tu veux pas boire aujourd'hui ? Je vais voir comment je m'appelle. Et les symptômes qu'on va avoir, c'est qu'on va commencer à trembler, on va commencer à pas être bien, on va transpirer, puis on va lui dire, oui ma chérie, j'arrive, excuse-moi, je te demande pardon. Je ne t'ai pas embrassé aujourd'hui. Et on est cuit, au sens propre et figuré. Et ça, l'autre chose intéressante, c'est qu'on consomme malgré les conséquences. C'est-à-dire qu'on sait au fond de nous qu'on a été eu. Et en fait, vous voyez, quand on est pendant l'adolescence en train d'apprendre des choses, si on apprend à boire, on sera aussi bon en déclinaison latine qu'en consommation d'alcool. C'est pendant l'adolescence qu'on construit ça. Bon, il a décidé de me tuer, celui-là. Alors, une autre expérience intéressante, c'est de prendre un tyran, de nouveau une petite souris. Vous lui donnez l'opportunité de stimuler, on va prendre la pompe à droite. Vous lui donnez l'opportunité de stimuler une petite pompe qui va lui injecter dans le système limbique une drogue ou de l'eau. Donc le petit rat, lui, va venir vers la pompe, et puis il va appuyer une fois. Puis si c'est de l'eau qui est injectée, le petit rat, il va continuer son chemin. Il va dire, ouais, écoute, franchement, je vois pas. Hein. Si vous lui donnez de la coke, du cannabis, de la nicotine, une drogue, il va appuyer une fois, qu'est-ce qui va se passer? Surstimulation de dopamine. Le rat, il fait un saut. Il dit, mais c'est génial ce truc-là, et encore, hein. Mais c'est fabuleux, mais c'est extraordinaire, mais j'en veux encore, mais je veux plus arrêter. Et il n'arrête pas. Et le problème, c'est que si, cruel expérimentateur que nous sommes, nous proposons à cet animal en train de se perdre hein, dans une folie complètement... une partie de... comment on appelle ça free party, là. Et on lui dit, écoute, mon petit, viens ici boire de l'eau. Viens boire un petit peu. Ça fait 2 heures que tu es en train de t'injecter des saloperies. Prends un peu d'eau, ça, tu dois avoir soif. Et bien le rat, il préfère mourir qu'aller boire. Il préfère rester accroché à la substance. Et si on prend une autre substance qui altère la capacité du cerveau, je suis désolé, mais mon oreille m'avait dit que... Si vous prenez le jeu, prenez un chimpanzé. Vous lui mettez des lunettes noires, on dirait un joueur de poker. Alors vous avez vu, les joueurs de poker, ils tirent toujours la gueule. Si vous voulez pas avoir le moral, regardez une partie de poker. Ils sont toujours tristes. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils gagnent. Non, non. Et avec ce singe, vous lui mettez un ordinateur, puis vous lui dites, écoute, mon cher, on fait comme ça. Si tu appuies sur un bouton et que ça vient jaune, tu gagnes une banane. Si tu appuies sur un autre bouton et que ça vient rouge, tu n'as pas de banane. Compris? Ok. Jaune, banane, rouge, pas de banane. Bon, le singe, il joue au moment, puis on mesure sa dopamine. Puis on observe que quand, au début, là, la première ligne verte, il appuie sur le bouton jaune, il y a la banane, parce que il a le voyant qui arrive, donc il a du plaisir. La dopamine, elle monte, parce qu'il peut manger sa banane. Bon, il mange sa banane, il est tout content. Deuxième expérience, il appuie sur l'autre bouton, il s'est trompé, il a oublié, tac, bouf, pas de banane. Pas de plaisir. Puis après, on lui donne quand même une banane, parce qu'on est humain. Hein, faut qu'il bosse. Donc on lui donne une banane, youpi, il est content. Maintenant, on pousse un peu le bouchon. On dit au singe, on lui apprend, ça prend un peu du temps. On lui dit, écoute mon cher, maintenant tu vas appuyer sur le bouton, peut-être, à 50%. Le bouton devient jaune et tu gagnes une banane. Peut-être, à 50%, le bouton devient rouge et tu ne gagnes pas de banane. Pigé. Le singe, il joue et qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'il a plus de plaisir à imaginer que peut-être il va gagner qu'à gagner. Et c'est comme ça qu'on joue au loto. Quand vous jouez au loto, il est où le plaisir? D'abord dans le fait que vous vous souvenez de l'anniversaire de mariage, de l'anniversaire de votre fils, de toutes les dates importantes de votre vie. Alors le 22, ça c'est important, le 12, ça c'est quand je l'ai croisé, ça c'est quand j'ai changé de voiture. Voilà. Ça c'est le bonheur. Gagner 6 millions, vous voulez faire quoi avec? On doit payer des impôts, après il faut acheter des trucs qu'on n'a pas besoin. Et le plaisir c'est dans 22, 44, 60... Alors c'est, t'as gagné ça? Non. La semaine prochaine, je te jure, je gagne. Bon, change de numéro. Je prendrai d'autres. Non. Bref, c'est ça le singe. Il fait la même chose. Et en fait, l'addiction, c'est the dark side of learning. Il y a quelqu'un qui a joué la guerre des étoiles là, sur le piano. Ben, c'est ça la vie. Quand on est humain ou animal, on a un seul rêve. C'est apprendre. Apprendre. Le cerveau, il est surstimulé quand il y a quelque chose de nouveau. Vous savez, c'est pas pour rien que Apple ils sortent chaque année un nouvel iPhone ou bien que Samsung ils sortent chaque année un nouveau téléphone. C'est parce que ça stimule notre cerveau qui est là en train de dire oh c'est nouveau ça je veux j'ai pas besoin mais je veux. C'est la dopamine qui est stimulée. Parce que notre cerveau il cherche le nouveau parce que pour lui le nouveau c'est quelque chose qui peut l'amener à avancer à progresser. Et dans la nature vous avez tous vécu ça. Quand vous regardez un couple au départ, hein, au départ il y a l'amour fou donc il y a la dopamine qui monte très très haut. Hein, d'ailleurs, les couples, au départ, ils sont collés l'un à l'autre. Hein. Quand ils vont faire les commissions, ils ne savent pas comment ils peuvent prendre les objets dans les rayons parce qu'ils se tiennent les deux. Après quelques années, on se donne la main. Donc, c'est plus facile. On peut prendre le lait, moi, je prends le sucre. Et après, il y en a un qui est au rayon informatique. Et puis, on lui dit, tu prends du déodorant parce que j'ai oublié de l'acheter. Mais on s'aime toujours. En fait, on diminue la dopamine jusqu'à ce que l'apprentissage soit acquis. Tu prends là du plaisir. Quand vous bossez, c'est la même chose. Au départ, le nouveau boulot, c'est fabuleux. Bien. Mais au bout d'un moment, ça va, le boulot, ouais, ça passe, c'est sympa. C'est vendredi, quoi. Et ça, c'est dans la normalité. Quand on prend des drogues, elles surstimulent la dopamine. Donc pour le cerveau, c'est youpi, quelque chose de nouveau. Il faut que je fasse, il faut que je fasse. Le problème, c'est que la drogue, elle vous trompe. C'est comme un virus informatique. Elle vous donne l'impression qu'il y a un nouveau programme qui va se lancer, mais il tourne dans le yogourt. Et puis vous attendez, il n'y a rien qui se passe. Alors vous dites, je vais relancer. Et ça repart. Jouf, et ça retourne dans le vide. Alors que ça n'installe plus rien. Et les drogues, elles agissent comme un virus informatique. Elles vont vous donner envie d'un plaisir que vous n'allez plus avoir envie d'avoir, parce que, de toute façon, je ne veux pas que vous n'avez plus envie d'avoir, que vous aurez toujours envie d'avoir, mais que vous n'aurez plus. Le premier plaisir qu'on a, c'est comme le premier baiser. Il est unique. Et la drogue, elle vous donne un premier baiser unique. Et vous le recherchez toujours. Et le retrouverez jamais. Vous voyez, la vie, c'est un peu comme une traversée du désert. On doit avancer dans la vie. On avance, on avance, on avance. On ne sait pas toujours où on va, mais on avance. Et pour bien comprendre ce que c'est l'addiction, il faut penser au Dupont. Vous savez, dans les Dupont, dans l'or noir, ils tournent dans le désert, donc ils sont en train de rouler à fond avec leur Jeep, là. Puis, ils se disent, mais nom de bleu, la cinquième fois qu'ils voient des traces de Jeep, ils disent, nom de bleu, mais c'est l'autoroute ici, le monde qu'il y a. Bon, ils ne sont pas très futés, mais quand même, hein, on aurait eu la même réaction. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? C'est fabuleux, il y a un connard qui a perdu son jerrycan. Bon, ça, c'est vraiment, il y a le pauvre, hein, il va être embêté. Donc, ils prennent le jerrycan et qu'est-ce qu'ils observent? C'est qu'ils ont perdu, eux, le jerrycan. Donc, en fait, ils tournent en rond. Ça, c'est les addicts. Quand ils trouvent le jerrycan, c'est le premier pas vers la guérison. Parce que tout à coup, ils se disent, mais je me fais avoir, là. Je ne suis plus dans la direction nord-sud, je suis en train de tourner sur place. Et en fait, c'est vrai que dans les addictions, il y a plein de choses qui vont favoriser le fait de devenir accro. Alors, il y a beaucoup de paramètres. 40 à 60% c'est génétique. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils boiront un verre de vin, ça n'aura jamais aucune conséquence sur eux. Ils boiront toujours raisonnablement. Et il y en a, ils vont développer une machine. C'est un peu comme ouvrir une boîte de Pandore. On ne sait pas quelle boîte on a. On ne sait pas ce qu'on a au fond. On ne sait pas quel monstre on va réveiller. Le problème, il est là. Et dans 40 à 60%, c'est génétique. Mais on n'est pas condamné par la génétique. Après, il y a la situation familiale. Il y a la disponibilité des drogues. C'est vrai, c'est quand il faut à peu près un quart d'heure pour trouver de la cocaïne. Hein, c'est pratiquement plus facile d'acheter de la coke aujourd'hui qu'un iPhone 5. Ça veut dire quand même qu'ils sont meilleurs pour la logistique, hein, à mon avis. Il y a un problème. Après, il y a les copains. C'est toujours facile. Moi, si je viens vers mon fils, puis je dis, tu prends pas, tiens, essaie ce joint. Il va me dire, t'es fou, bien. Par contre, s'il est dans une soirée, puis qu'il a une fille qu'il trouve jolie, puis qu'il lui dit, tu veux pas un joint? Il va devoir dire non à la fille. C'est dur. Parce qu'on est humain. Une autre chose, quand on est addict, c'est qu'on perd ce que l'on appelle le contrôle de l'envie. Une personne qui a envie normalement, il dira, je vais raisonnablement boire deux verres de vin. Point. Voilà, après, non, ça va, j'ai pas envie. Ou bien, j'ai pas envie ce soir. Un alcoolique, il a perdu le contrôle. Vous voyez, le contrôle est devenu atomique. Et en fait, le grand problème qu'on a avec l'addiction, en général, c'est qu'une personne addicte, c'est un malade qui va souffrir longtemps. Quelqu'un qui prend de l'héroïne, ou du cannabis, ou une drogue. Si on veut être dur de chez dur, hein, vous le mettez dans une salle, vous l'enfermez, vous le laissez 2 semaines, 3 semaines, avec de quoi manger. Il n'a plus envie de cannabis, il n'a plus envie d'héroïne après. Le cerveau, il se libère de l'envie. Enfin, physiologiquement. Par contre, il va commencer un combat contre un fantôme. Du souvenir qu'il a eu de la substance qu'il a prise. Et le combat de l'addiction, le combat de la personne qui a consommé des substances, c'est qu'elle va devoir effacer de sa mémoire un mauvais ami, qui va toujours revenir. Dès qu'on a un souci, en général, on retombe. Parce qu'il est là, fidèle. C'est un vrai ami. Une bouteille de vin, quand on est triste, elle est toujours à dispo. Elle ne vous engueule pas. Elle est gentille. Il faut juste déboucher. Et maintenant, il y a des systèmes électroniques super sophistiqués. Un joint, c'est toujours un ami. Il ne va jamais aller contre vous. Et c'est ce fantôme-là contre lequel il va falloir se battre. Parce qu'on a des cas de patients héroïnomanes qui 20 ou 30 ans après avoir consommé de l'héroïne et n'en ayant plus consommé pendant 30 ans, quand ils retrouvent l'endroit où ils ont consommé, ils retrouvent les mêmes plaisirs. Ils n'ont pas d'injection. Mais la mort est toujours là. Et le fantôme est là. Je passe juste sur deux diables et on va arriver au bout. voyez, si on regarde tous les systèmes qui sont mis en place dans le cerveau, dans les drogues et dans la vie, la régulation passe sur le plaisir et la mémoire. Ça, c'est essentiel. Une autre chose, c'est une étude vachement intéressante publiée dans un journal récemment, c'était Nature ou Science, je ne sais plus maintenant. Ils ont fait une étude sur des rats. Ils ont pris deux populations de rats. La première population de rats, ils l'ont mise dans un bassin. Et puis, ils les ont fait nager. Mais avec aucune possibilité de sortir de l'eau. Et l'autre population de rats, c'était happy hours. Ils avaient de la cocaïne à dispo. Ils pouvaient aller à fond. Et ils ont regardé après un gène. Après, ils ont tous fini sur le BIA, de toute façon. Disséqué. Et on a cherché un gène qui s'appelle le DNMT3A. Plus poliment, ou plus poétiquement appelé, de forget me not, ne m'oublie pas. Et ce gène, il est marrant parce que quand il est régulé chez les rats dépressifs, parce qu'au bout d'un moment, le rat, il voit qu'il ne peut pas sortir de son bain, donc il se laisse mourir, donc il fait comme une dépression, donc il perd l'envie de vivre, et bien on voit que ce rat, ce gène, il est surstimulé. Et chez les rats cocaïne, nomane, le gène est sous-stimulé. En fait, ce qu'on a, c'est qu'on a une modulation de l'envie. Dans un cas, on perd l'envie, et dans un cas, on perd la maîtrise de l'envie. Donc, on arrive à une deuxième « so what ?». En fait, on pourrait imaginer que la vie, elle est faite d'un mystérieux, une mystérieuse énergie qui nous donne envie. On ne sait pas pourquoi on a envie de faire des choses, mais on a envie. Cette envie, en général, si elle est bonne, elle nous donne du plaisir. Ce plaisir stimule la dopamine qui donc construit des connexions neuronales qui vont construire notre mémoire. Et ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. C'est le premier état. Maintenant, c'est quand ça déconne. C'est-à-dire que lorsqu'on stimule par d'abord l'entrée par le plaisir, ben en fait, on va avoir les mêmes effets, sauf qu'on va perturber le système. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir comme premier moteur l'envie qui nous donne du plaisir et qui nous construit une mémoire, qui va nous redonner des envies que l'on maîtrise, j'ai envie de faire ça parce que je sais que j'aime, on va stimuler artificiellement des plaisirs qui vont construire une mémoire qu'on n'a pas voulu construire, qui va nous donner des envies qu'on n'avait pas envie d'avoir et qui vont nous redonner envie d'avoir des plaisirs qu'on ne voulait pas. Donc on est les esclaves de nos plaisirs, on n'est plus les maîtres de nos plaisirs. Donc on n'est plus les maîtres de notre vie. Et finalement, l'histoire, c'est qui sommes-nous ? Connais-toi toi-même, c'est l'essentiel dans la vie. Et c'est vrai qu'on est dans une société où on est très vite des papillons épinglés. On se juge, on se jauge, on se condamne, on n'a aucune miséricorde à l'égard de nous-mêmes. On est très très dur. Même quand on est malade, en fait. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui fait une dépression, c'est comme s'il est épinglé. Alors on le traite avec des benzodiazépines, ça enlève l'épingle. Mais ça ne lui donne pas l'envie de voler. Il faut rechercher au fond de nous les ressources. Et dans une société où on est tout le temps en train de dire, la première chose qu'on dit des gens en général, c'est « Tu connais ce type-là ? » ?»« Ah, oh, mais il est con, celui-ci. » L'avantage, c'est qu'on est tous le con de quelqu'un. Donc en fait, on est 7 milliards de cons. Ça facilite la discussion. Hein ? Mais ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Et je voulais terminer avec, vous savez, quelqu'un a dit « Aime ton prochain comme toi-même. » C'est pas toujours clair. Et j'ai trouvé que les accords Toltec sont pas mal parce qu'ils expliquent bien cette phrase pas simple. Parce que dans « aime ton prochain comme toi-même », il y a ton prochain, mais on ne sait jamais qui c'est. Et toi-même, et on ne sait jamais qui c'est. Donc ça fait deux personnes inconnues qu'on doit aimer, c'est pas simple. Et en fait, c'est vrai que si on arrive à avoir des relations les uns avec les autres, où on pose le « que votre parole soit impeccable », impeccable c'est impeccatus, sans péché. Vous voyez, par exemple, à la fin de la conférence, vous pouvez sortir en disant « votre conférence, nulle ». Vous pouvez le dire, c'est normal. Et c'est possible, mais c'est pas impeccable. C'est pas gentil. Maintenant, moi j'ai 51 ans. Ça fait 51 ans que j'essaie de savoir qui je suis. Je dois dire que je travaille encore dessus. Je ne dois pas vous croire. Vous vous rendez compte? Ça fait une heure et demie qu'on est là et vous auriez eu la capacité en moins d'une heure et demie de savoir qui je suis. Alors moi, ça fait 51 ans que je sais pas qui je suis. Mais on est où là? Et moi je vous croirais. Non mais là ça va pas. Donc je ne dois pas prendre sur moi ça. Après, il n'y a aucune supposition. Combien de couples se séparent sur des suppositions ? Hein, vous rentrez le soir à la maison, en général, on rentre, on est toujours de bonne humeur, les hommes. Et Madame est à la maison, elle a eu aussi une journée de travail, mais bon. Et en général, on... Et on arrive, oh, bonsoir ma chérie. Et là, s'il te plaît, t'as pas fait les poubelles ce matin, t'as vu le gazon dans quel état il est, le remarque qu'on prend le soir. Bon. Donc on pourrait dire, oh non, mais ça va, ben, moi je rentre, je suis gentil, j'ai de bonne humeur, hein, j'avais des fleurs dans le coffre, ben, je les donnerai pas. Et on se fait engueuler. Donc bref, qu'est-ce qu'on fait? On part. Puis après, si ça se reproduit 3 soirs de suite, on va dire, mais elle m'aime plus. Et inversement, l'autre va dire, oh mais il est con ce soir, mais qu'est-ce qu'il a? Il y a un problème, ou bien il attend quelque chose, ça va pas. Et tout à coup, on commence à s'inventer une histoire qui n'existe pas. Et des fois, ça part en guerre pour rien. Puis la dernière chose, c'est qu'il faut toujours faire de son mieux. Il y a des matins, on se lève, franchement, ça va être la galère. Pas super, on sent que... On a des dossiers qu'on va vite mettre au lendemain, hein, parce que ça ne va pas aller. Ben, c'est pas grave, je veux dire, on n'est pas tous les jours Superman. Alors autant faire le maximum du minimum qu'on a eu la capacité de réunir le matin quand on s'est levé. Ça peut être des fois 90% de nos capacités, des fois c'est 100%, des fois c'est 2%. Mais utilisons le 100% de ce qu'on a à donner. Merci beaucoup.
D'abord, un grand merci pour tout ce que vous nous avez apporté. Donc, je ne sais pas, ça s'appelle des neurones là-haut. J'essaie d'assimiler un tout petit peu.
Ça s'appelle aussi l'âme.
Voilà. Merci. Et peut-être vous avez, suite à ce que vous avez entendu, vous avez des questions. Donc, il y a une possibilité maintenant d'avoir un petit moment de questions. Si vous avez des choses que vous aimeriez poser publiquement à notre orateur, sinon peut-être après, discrètement, il y aura une possibilité, mais est-ce que vous avez des questions? Philippe.
Alors, Paracels a dit, c'est la dose qui fait le poison. Alors, vous avez dit, boire un verre, ça va. Et puis, face à un toxicomane, est-ce qu'on pourrait quand même dire, avant la toxicomanie, est-ce qu'il y a une dose où le cannabis ou l'héroïne n'est pas dangereuse, je ne sais pas.
Par contre, j'ai dit,
un shoot tous les 5 ans, voilà.
C'est vrai que la dose fait le venin. Maintenant, il y a des gens qui fumeront un joint et ça n'aura jamais aucune conséquence. Mais quand on voit tous les mécanismes cérébraux, quand on voit la finesse de régulation de notre neurobiologie, la prise d'une substance est un risque. Mais on peut aujourd'hui dire qu'il n'y a pas de concentration, de quantité raisonnable de cigarettes, ou d'héroïne, ou de cocaïne, ou de cannabis, il n'y a pas. L'alcool, c'est la seule substance qu'on peut considérer avec une dose A qui est acceptable. Parce que finalement, on peut boire, c'est comme je dis, on a un crédit d'alcool. Et on peut boire un verre. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des études qui montrent que c'est cardioprotecteur. Mais à partir de 40 ans. Pas à partir de 20 ans. Donc ça veut dire qu'on peut aujourd'hui consommer de l'alcool avec raison, sans aucun danger, sans aucun risque, alors que les autres substances... Par exemple, si on prend un verre d'alcool, on est under influence, on est sous influence pendant 1h15, 2h. Un joint, c'est 24 heures. Le LSD, c'est 3 jours. Les amphétamines, c'est 2 jours. Donc c'est quand même d'autres réponses du cerveau. Ensuite, on a une rétro-régulation de beaucoup d'autres neurotransmetteurs quand on prend des substances. Alors, c'est clair qu'après, quand on regarde globalement dans la population mondiale, on n'a pas un taux de mortalité énorme par rapport à la consommation des substances. Mais aujourd'hui, on est dans une phase de société assez spéciale. C'est qu'on n'a jamais vu ça. On n'a pas de recul. En 68, ceux qui consommaient, c'était une équipe. Aujourd'hui, c'est presque tout le monde. Donc, on ne sait pas comment on va être dans 30 ans quand on va récupérer toute cette équipe-là. Donc, on ne sait pas exactement. Donc, cette réponse, je peux vous la donner dans 30 ans. Intuitivement, en partant du principe de précaution, moi, je me dirais, il y a des substances que je n'essaierai pas, mais il y a des tas de gens qui les seront un joint. C'est vrai qu'on peut rentrer à la maison et puis avoir dit, j'ai fumé un pétard, et alors, oh, ben, écoute, j'ai bien rigolé, etc. Et alors, moi, j'ai plus tellement envie. Bon, ben, et ça peut n'avoir aucune conséquence. Le corps et la nature ont des tas de réserves. On a une capacité de répondre. Disons, moi, j'essaie de donner un message, je dis... Le mieux, c'est la prudence. Après, dans la vie, on fait tous des expériences. Elles ne sont pas toutes sans conséquences. Elles ne sont pas toutes avec conséquences. J'aime toujours bien l'expérience, l'image de la montagne. Il y a des quantités astronomiques de jeunes de chez vous, de chez nous, qui, Noël, vont faire de la hors-piste. Eh bien, on en a chaque année une dizaine qu'on retrouve sous une avalanche. Mais pas les 10 000 qui skient et qui font du hors-piste. Donc c'est... Alors, à partir de combien de personnes on peut accepter que ça vaut la peine de laisser sortir ces... Moi, je pense que c'est un problème, c'est qu'on va réveiller quelque chose qu'on ne sait pas. Alors, on sait aujourd'hui qu'il y a des substances qui n'ont pas de dose minimale. Et l'alcool est la seule drogue qu'on peut consommer avec modération. Enfin. C'est pas mon côté malaisant.
J'aurais juste voulu vous demander quelle est la composition de ce que vous montrez comme spice qu'on trouve sur Internet et d'autres. Composition.
Alors le spice, c'est une molécule chimique qui s'appelle, en fait, le nom chimique. Je ne suis pas chimiste, mais c'est de la chimie pure. En fait, c'est des molécules, c'est des dérivés soit de piperidine ou de metcatinone ou de choses. Mais là, c'est en fait des agoniques particuliers du cannabis. Donc, c'est des molécules qui sont un peu cousines de l'anandamide. C'est des grands... Je ne suis pas chimiste. C'est fabriqué, c'est sur synthèse pure. Et ça s'appelle... Le nom général, c'est JWH. Ça veut dire John William Hertz. Je crois que c'est le nom du chimiste américain qui a développé ça. Mais c'est des molécules, on trouve bien la formule. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est quand quelqu'un consomme du spice... Il y a le 0,18, le 0,21, le 210, le 150, le 300. Et donc, nous, on arrive à doser le 18, mais peut-être pas le 250. Donc, on est en train de développer des méthodes pour pouvoir tous les prendre en même temps. Voilà, c'est les sels de bain. Actuellement, on peut... Maintenant, on commence. À Lausanne, on les détecte. Dommage. Donc, maintenant, on commence à... Et on a eu 2-3 cas en Valais de patients qui avaient pris du spice. Et qu'il avait commandé, d'ailleurs, je rigolais parce que les flics, ils me disaient, tu vois, avant, quand on prenait des poudres, ils prenaient comme ça, ils mettaient dans les dents, ils disaient, ouais, ça, c'est de la coke. Maintenant, ils disent, on n'ose plus parce qu'on ne sait pas ce que c'est. D'ailleurs, les gens qui fabriquent ces molécules ne savent pas les effets que ça a. On découvre maintenant, c'est après sur la bête qu'on dit, ah ben oui, ça fait quand même sacrément des effets. Aux États-Unis, il y a un type qui a pris du spice, mais de la méphédrone, donc c'est un dérivé de la catinone, du cat, hein, cette plante qu'on trouve en Somalie. En fait, vous imaginez une trentaine d'officiers de police armés avec des balles à blanc et le type, ils sont à 30 pour essayer de l'intercepter. Il lui tire dessus avec les balles à blanc, il ne sent rien parce qu'il n'a pas de douleur. Donc, ils se sont mis à 30 pour l'intercepter. Donc, on ne sait pas ce que ça va réveiller. On est bien.
D'autres questions ?
Ouais. Je voulais savoir ce qu'il en était de la fumée passive du cannabis. Si ça avait des effets aussi sur les personnes, l'entourage.
Alors ça, c'est un grand problème qu'on a d'un point de vue juridique. C'est qu'on a souvent des gens qui sont interceptés par la police dans une soirée où ils ont fumé des pétards, toute une équipe, mais la personne interceptée, c'est justement le seul qui n'avait pas fumé dans la soirée et qui dit « mais je suis sous l'influence à cause de la fumée passive ». Alors, d'après les études qui ont été faites, ils ont fait comme ça aux États-Unis, ils ont pris un bus, un minivan, ils ont pris 10 personnes, ils ont mis 10 dedans. 5 ont fumé pendant 2 heures des joints, 5 ont tranquillement lu un livre et profité de l'ambiance calme et enfumée du bus. Conséquence, tout le monde sort du bus, on analyse, on fait un prélèvement salivaire, sanguin, urinaire, et on dose. Tous étaient positifs dans la salive. N'étaient positifs dans le sang et dans l'urine que les consommateurs. Donc, en principe, en tout cas, c'est ce que on dit actuellement aux juges ou à la police. Quand on veut fumer un pétard, il faut payer. On ne peut pas profiter de l'expiration de son voisin. Mais on a aujourd'hui des méthodes de détection très fines qui vont très très bas. Donc les traces qu'on retrouve dans le corps de celui qui a fumé ou qui était à côté d'une personne sont faites parce qu'il semble qu'il faut quand même bien faire descendre la fumée dans le plus profond du poumon. Et un fumeur qui ne sait pas vraiment bien fumer, il peut être moins intoxiqué qu'un fumeur qui est un bon fumeur. Donc quelqu'un qui tire comme il faut puis qui inhale profondément jusqu'au dernier recoin du poumon aura plus d'effet de cannabis que quelqu'un qui crapote comme ça parce qu'il ne sait pas fumer. Donc, en principe, c'est plutôt comme ça qu'on travaille.
Merci. D'autres questions ?
Vous placez le protoxyde d'azote dans les drogues.
Ah oui, alors toutes ces drogues-là qui sont des euphorisants rapides, ce sont des drogues, il y en a des problèmes. Une des choses qu'on voit, c'est qu'on a certains cas de gens qui utilisent ces drogues euphorisants, et on a des difficultés à les doser. Mais effectivement, c'est des drogues qui sont utilisées dans certains milieux. Et on a eu un cas comme ça dans un accident de la route où la personne avait... On a retrouvé du protoxyde d'azote dans la poche, et puis la police a demandé qu'est-ce qu'on pouvait investiguer. Et puis en fait, on a réussi à mesurer que le taux d'oxygène sur les hémoglobines était plus bas. Donc on a pu dire, effectivement, il était moins bien oxygéné. D'ailleurs, souvent, le protoxyde d'azote, le problème qu'il va avoir, c'est qu'il va créer une sorte d'hypoxie. Il va diminuer la quantité d'oxygène qu'il y a dans le cerveau, et ça crée cette sorte de manque en oxygène, une sorte d'euphorie. Mais c'est une drogue totalement comme les autres. Et je l'ai même fumé de la colle ou toutes ces choses-là, c'est la même chose.
Que pensez-vous de la légalisation du cannabis?
Voyez, Raphaël Mechoulan, qui est le gars qui a découvert le THC en 1961, il disait que lui, qui connaît bien tout le métabolisme, c'est lui qui a découvert les récepteurs CB1, etc., donc c'est une personne scientifiquement de qualité, lui disait, il n'est pas tellement fan de l'idée de libéraliser ou de légaliser, mais c'est les politiques qui doivent le faire. Personnellement, moi j'ai l'impression que si on regarde la logique des choses, libéraliser, ça serait perdre une partie de notre population, c'est ce qu'on appelle faire un génocide. Et je pense qu'aujourd'hui, si on ne protège pas les petits, alors on n'est plus dans une démocratie. Ça c'est mon idée, mais c'est l'idée d'un père de famille plus que d'un toxicologue. Après, ce que je pense, c'est que vous voyez, aujourd'hui, il y a un problème humain. Quand vous interceptez au bord de la route un jeune de 18 ans, aujourd'hui actuellement en Valais, une personne sur quatre qui est interceptée au volant, ivre, à moins de 25 ans, donc un sur quatre, et le 10% de cette population est alcoolique chronique. Donc ça veut dire qu'on a déjà une population de moins de 25 ans alcoolique chronique. L'interdiction de rouler sous influence d'alcool, l'interdiction de consommer du cannabis permet à la loi d'agir comme ce que je leur dis aux flics, c'est ça, parce que je travaille beaucoup avec eux. Je leur dis, vous avez une mission de dépistage médical. Alors, libéraliser ou dépénaliser, ça serait pour moi une folie. Maintenant, une fois qu'on a intercepté quelqu'un dans nos filets, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut le punir. Mais pas forcément, il faut dire qu'on va le punir. Mais en réalité, il faut l'aider. Pas c'est un malade. On ne punit pas un malade. Mais on doit avoir le moyen de le punir pour le sortir. Maintenant, aujourd'hui, avec les 100 balles, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont se fumer comme ils veulent, les gens. Parce que vous croyez qu'il y a quelqu'un... La police, aujourd'hui, si vous roulez en Valais, la probabilité... Ou bien même si vous partez en Genève, vous allez jusqu'à Sierre, la probabilité, si vous roulez correctement, de vous faire intercepter pour un contrôle, elle est nulle. Donc vous imaginez que la police, ils sont déjà pas assez, ils sont les éboueurs de la société, donc ils ont des missions de pire en pire, c'est de pire en pire ce qu'ils font. Ils sont pas soutenus, ils vont aller emmerder un gamin de 17 ans qui fume un pétard pour 100 balles. Non, il est où le politicien qui a eu cette idée? Mais non, moi je pense que c'est pas une bonne idée, mais après c'est la politique qui décide, on est en démocratie, elle a la mollesse qu'elle veut, mais c'est pas. Mais moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée.
Est-ce qu'à l'école, on peut imaginer en cours de sciences qu'on explique sans faire la morale, mais qu'on explique vraiment, comme vous avez expliqué ce soir, les effets, comment ça réagit vraiment le cerveau pour que les enfants d'eux-mêmes, pas tous, hein, mais qu'une partie, peut-être, ça va leur rester. Je n'ai pas l'impression que ça se fait vraiment à l'école maintenant.
Les scientifiques, je vais vous dire, on est une équipe un peu spéciale. C'est qu'on n'est pas des grands communicateurs. Et c'est vrai que j'ai toujours cru, d'ailleurs il n'y a qu'à lire 1984 de George Orwell, pour mesurer combien c'est vrai, que la dictature passe par l'ignorance. Et la connaissance, c'est la liberté. Et aujourd'hui, je crois que c'est la première arme qu'on a contre l'hydre de Lerne, c'est la connaissance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, n'importe quel prof de biologie peut aller chercher dans la littérature scientifique, même dans Pour la science, scientifique américaine, la recherche. Il y a des quantités astronomiques d'articles réellement superbement bien faits. qui vulgarise un problème et qui explique comment fonctionne le cerveau et comment agit le système de la dopamine. Aux États-Unis, il y a le NIDA, le National Institute of Drug and Abuse, qui a des présentations de la situation pour expliquer qu'est-ce que c'est que les drogues, qu'est-ce que c'est l'addiction, qui sont fabuleuses. C'est en anglais, mais ça se traduit. Il y a des moyens. Et la connaissance, c'est vrai que quand vous arrivez, vous dites, dis donc les jeunes, il ne faut pas fumer. Hein. Pépé va à l'asile, puis tu vas boire ta bière. Hein. Mais l'éducation, en principe, à l'école, on devrait apprendre. À apprendre et à découvrir des choses. Mais c'est vrai que c'est l'outil qui sauvera aujourd'hui l'ignorance qu'on a. Regardez, les gens parlent encore des drogues comme... Il y a la cigarette, il y a le cannabis, il y a l'alcool. Ouais, c'est un... Non, le problème majeur, c'est aujourd'hui, quand on fait des interceptions de personnes au volant ou dans des cas d'investigation policière, quand on regarde les gens ce qu'ils consomment, ils ne consomment pas une drogue. Ils consomment plein de trucs. C'est dans plus de 50% des cas, on a plus qu'une drogue à bord. Et les records qu'on a, mais on a encore eu dernièrement un type. Alors, le type, il s'est intercepté. Il a 2,8 pour 1000 d'alcool. Il a un antidépresseur, de la mirtazapine. Il a des benzodiazépines à bord, du lorazépam. Il a des opiacés, de la morphine. Hein. Et puis, je ne sais plus encore ce qu'il avait. De la cocaïne. Donc, alcool plus 5 substances. C'est pas rare. Parce que vous comprenez, les gens, quand ils font la fête, ils font comme ça. Ils boivent un peu d'alcool, ça les détend. Après, ils sont trop détendus. Ils prennent de la cocaïne, ça les stimule, mais après, ils sont trop stimulés. Après, le cannabis, ça calme un petit peu, mais après, ils sont trop calmes. Après, ils ont soif, donc ils boivent de l'alcool. Puis après, il y a toujours un copain qui a de l'extra ou autre chose, donc ils essayent, etc. Puis après, ouais, ça tremble un peu. Ils prennent un benzo. C'est des pharmacies ambulantes. Donc, s'ils savent comment ça fonctionne, ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas de conneries. Hein. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, mais on explique aux gens que rouler à plus que 120 km/h sur l'autoroute, c'est dangereux. Quand vous roulez à 120 km sur l'autoroute, vous êtes un débile. Non, je veux dire, parce qu'on vous klaxonne. Hein. Quand vous traversez la route, en regardant à droite, à gauche. Donc je veux dire, on va pouvoir enseigner tout ce qu'on veut. Hein. Mais ça ne fait rien. Tant qu'on en sauvera un, on aura gagné.
Je n'ai pas une question, j'ai une suggestion. Est-ce que vous pourriez aller un jour devant le Conseil fédéral à présenter votre brillante conférence?
Voilà.